que ça. Donc je vous remercie d'être là, tous.
Courageux.
Je ne remercie pas les absents. Bien qu'ils soient plus nombreux aujourd'hui. Et merci beaucoup à Dominique Sarrazin d'avoir accepté notre invitation. Alors j'ai une petite gêne parce que l'illustre inconnu que je suis va te présenter l'homme illustre qu'il est. On aurait dû faire l'inverse. Et donc ainsi sont les rôles. Dominique Sarrazin a une compagnie qui s'appelle le Théâtre de la Découverte, créé en 1981, la belle époque, si je puis dire. Et cette compagnie est domiciliée au Théâtre de la Verrière, donc ici à Lille, du côté de Oisem. Et Dominique Sarrazin est ce qu'on appelle, fait partie des gens de théâtre, et c'est une expression que j'aime beaucoup, parce qu'elle dit une communauté, elle dit plein de métiers, des constructeurs, des éclairagistes, des metteurs en scène, des comédiens, des écrivains. Et tous ces gens qui font vivre le spectacle vivant. Et donc je vous propose qu'on laisse pour après la conférence de Dominique Sarrazin, la discussion dans laquelle on abordera son rapport au comique et à l'humour, qui est quand même une histoire assez ancienne, et qui a accompagné tout son parcours. Et je voudrais juste dire un petit mot sur... D'abord le remercier pour un mot qu'il a écrit dans le texte de présentation que vous avez dans son programme, que je trouve excellent. Je résume, il dit que... Je simplifie, mais il dit que le rire est une pathologie. Et d'abord, c'est une très vieille histoire. Parce que les premiers à parler du rire sont les médecins. Hippocrate. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'Hippocrate et de Démocrite. Je ne vous la raconterai pas, il faut que vous veniez le 3 avril. On a une séance sur le soin à l'hôpital. Le rire soigne-t-il? À l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Et si vous venez, je vous promets que je vous raconte l'histoire de Démocrite et d'Hippocrate. Donc merci à Dominique pour ce mot de pathologie. Et juste, je vous dis quand même un tout petit mot, c'est que pathologie, vous entendez pathos dedans, qui vient du grec, qui veut dire subir. Et ceux qui étaient présents aux deux premières séances qu'on a eues, donc la conférence inaugurale de Pascal Pic et hier avec Olivier Mongin, ont su qu'on pouvait subir le rire, enfin en tout cas, moi ça m'est arrivé, et être victime d'un rire un peu incoercible, moi c'est ce que j'appelle subir le rire. Mais je lis la phrase de Dominique Sarrazin que je trouve vraiment très chouette. Il dit « À l'égard de cette manifestation jouissivement pathologique, donc c'est aujourd'hui, osons le mot, mieux vaut, à mon humble avis, entendre le malade que les spécialistes. » Alors, je ne sais pas si Dominique Sarrazin veut dire par là qu'il est malade.
Oui.
Mais en tout cas, on va l'écouter et puis on verra ce qu'on peut faire pour lui.
Voilà. Je ne sais pas votre nom.
Oui.
Ça commence à bien faire.
Duchemol.
Voilà. Encore une étrangère.
Encore une étrangère.
Une prestation, donc vous inquiétez pas, si vous en c'est par obligation et je c'est sais. Pas par ennui.
Moi-même, d'ici une demi-heure, je ne serai plus là. Alors là. Oui, merci pour cette introduction. Oui, c'est une pathologie. Oui, je suis sinon souffrant ou endurant, mais au moins atteint. Je suis atteint. Voilà, gravement, je ne sais pas, mais je suis atteint. J'en parlerai tout à l'heure, enfin surtout à propos de l'humour, plus que du rire. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, à savoir l'intitulé « Pourquoi nous rions ?» Si, nous rions. Je crois qu'il faut régler de bonne foi la question, si vous permettez. Pour rire de quelque chose, il faut premièrement... savoir de quoi l'on rit. Deuxièmement, savoir pourquoi l'on rit. Troisièmement, demander aux gens pourquoi ils croient que l'on rit. Quatrièmement, prendre quelques notes rapides. Cinquièmement, rire. Mais même alors, la chose peut prendre des jours avant d'être vraiment élucidée. En fait, tout rire est un simple réflexe compensateur qui remplace l'étonnement. Ce qu'en réalité nous voudrions faire, c'est éternuer. Mais comme ce n'est pas toujours possible, au lieu de ça, nous rions. Il nous arrive quelquefois de sous-estimer nos capacités et d'éclater de rire en éternuant en même temps. Ce qui fait quand même un boucan et un bordel du diable. La vieille expression d'ailleurs, il n'y a pas de quoi éternuer, confirme la justesse de mon point de vue. Ce qu'elle signifie en réalité, c'est « il n'y a vraiment pas de quoi rire ». Il paraît étonnant que personne n'ait pensé à cette explication du rire qui pourtant saute aux yeux. Cependant, je dois dire que Schwanzenleben, dans son livre « L'humour après la mort », aborde indirectement la question, un ouvrage qu'on ne trouve plus malheureusement, en écrivant, je cite, « Le rire est une rigidité musculaire spasmodiquement détendue par une crispation involontaire. Il peut être provoqué à l'aide de l'électricité aussi bien que par une plaisanterie. » Nous éternuons donc, je le rappelle, soit que nous soyons contrariés, découragés ou même dégoûtés. À défaut d'éternuer, donc, nous rions. J'allais dire faute de mieux. Analysez n'importe quelle histoire drôle ou situation comique susceptible de vous faire rire et vous verrez que cette théorie est correcte. Vous vous apercevrez aussi incidemment qu'une fois l'humour analysé, l'envie de rire aura disparu. Bon, prenons l'histoire bien connue du monsieur qui fait entrer un cheval dans la salle de bain. Une nuit, un monsieur qui vivait dans une pension de famille amène un cheval qu'il fait passer par l'escalier et qu'il enferme dans la salle de bain. Réveillé par le vacarme, la propriétaire pousse les hauts cris, proteste que la rampe est cassée, le tapis déchiré, et se plaint de l'inanité d'une telle entreprise. Confidentiellement, elle demande à ce monsieur ce qui lui avait pris de faire entrer ce cheval dans la salle de bain commune. À quoi le monsieur répond « Demain matin, tous les pensionnaires un à un iront dans la salle de bain et en ressortiront précipitamment en s'écriant « Nom de Dieu, il y a un cheval dans la salle de bain, je veux pouvoir leur dire oui, je sais. » Et voici donc un exemple parfait du complexe penser éternuement. Ou si vous voulez, éternuement penser. Ce monsieur, un introverti évidemment, est ému par une volonté de puissance convergent vers la salle de bain et combinée au désir de s'affirmer supérieur aux autres pensionnaires. L'humour de l'histoire peut nous paraître tenir dans la réplique « Oui, je veux pouvoir leur dire, oui, oui, je sais, je sais. » Mais en réalité, nous rions subconsciemment de la plaisanterie longtemps avant qu'elle n'ait été dite, avouez-le. À vrai dire, ce qui nous fait rire ou éternuer, c'est d'entendre quelqu'un nous raconter une histoire que nous connaissons déjà. Bon, supposons que... c'est pas très clair. Supposons que l'histoire soit inversée et qu'un cheval ait enfermé un homme dans la salle de bain. Notre rire eût alors été provoqué par l'idée de la propriétaire interrogeant le cheval et du cheval lui répondant. Genre de plaisanterie, mais entièrement différente. Oui, parce que dans ce cas, l'homme serait resté dans la salle de bain, ce qui l'aurait exclu de l'histoire. De même, si c'est l'homme qui a enfermé la propriétaire dans la salle de bain, le cheval aurait été hors de combat. Toute plaisanterie, outre le fait qu'elle donne envie d'éternuer, doit comporter 5 points cardinaux par lesquels il faut passer avant de se laisser aller. 1. La plaisanterie doit être faite dans une langue que nous comprenons. Deuxièmement, il faut qu'elle soit dite à voix assez haute pour que nous puissions l'entendre ou être imprimée avec suffisamment de netteté pour que nous puissions la déchiffrer. Troisièmement, elle doit avoir un objet. On ne peut pas se contenter de dire « j'en connais une bien bonne » et s'arrêter là-dessus. On peut le faire, bien sûr, on peut le faire, mais alors il ne faut pas s'attendre à ce que les gens rient. Elle doit porter sur l'échec ou le succès, l'infériorité ou la supériorité, le sens ou le non-sens, l'agréable ou le désagréable, mais en tout cas jouer sur quelques émotions susceptibles d'être analysées. Autrement, comment ferions-nous pour savoir quand il faut rire? Cinquièmement, elle doit commencer toujours par la lettre N. À ce propos, et là je me fonde sur l'ouvrage de Gumphy, sur le rire en tant que maladie articulaire, Gumpy soutient que qu'il n'est pas indispensable que l'histoire commence forcément par la lettre N, pourvu que celle-ci figure dans le texte, avant la fin. Hein. Ben, toutefois, les tests faits sur 500 sujets à l'université de Harvard, du rire appliqué, avec le détecteur de rire de Mangalthal, ont montré que si l'histoire ne commence pas par la lettre N, le rire semble forcé, souvent. Et parfois même un rire déplaisant. Maintenant voyons si notre histoire du cheval se conforme à ces prescriptions, puisque nous allons utiliser la méthode de la gestalt ou de friction rotative pour éplucher notre plaisanterie, le mieux est encore d'utiliser un vague diagramme. Nous avons vu que toute plaisanterie doit être faite dans une langue que nous comprenons et dite ou écrite avec suffisamment de clarté pour que nous puissions l'entendre ou la lire, sans quoi nous obtiendrions le diagramme suivant, figure 1. Plaisanterie que nous ne pouvons ni voir ni entendre et dont nous ne pouvons pas comprendre les mots. Vous allez voir sur la figure 2, que l'on voit ici en vert, que le compagnon de l'homme qui est le cheval, quand il est accompagné dans la salle de bain, c'est à ce moment où nous prenons conscience qu'il s'agit d'une histoire qui n'est pas vraie. Ce que nous avons probablement soupçonné depuis un moment, mais sans vouloir un souffle mot, cette révélation soudaine de l'absurdité, du latin absurdus, qui veut dire « je ne suis absolument pas sourd », c'est pas la peine de crier comme ça, extérieur à la surdité en gros, est représenté dans notre diagramme par un paragraphe à l'ancienne mode, quasiment paléolithique. Après le choc suscité par la prise de conscience que ce n'est pas une histoire vraie, nous en arrivons au point du diagramme où le propriétaire proteste. La propriétaire proteste. C'est là le fait actuel. Il y en a qui dorment, je suis sûr. Ou l'acte factuel. Tout propriétaire doué de bon sens protesterait à l'idée qu'on enferme un cheval dans une salle de bain. Nous voyons donc sur le diagramme que le retour à la pensée logique normale, ou maladie de Crofter, que vous connaissez tous, s'effectue sous forme d'une ligne sinusoïdale. Attention. La suite n'a plus aucun intérêt. L'histoire sombre purement et simplement dans l'absurde. Dans notre diagramme, ce sont tous les petits œufs et les accents circonflexes qui indiquent en effet que quelque chose va de travers. Personnellement, je crois que l'homme, en fait, aurait voulu dire « ce n'est pas mon cheval, mais c'est ma femme », mais que la timidité l'en avait empêché. Il arrive que je n'arrive pas moi-même à saisir le véritable sens de certaines de ces histoires drôles. Voilà. C'est un texte de Robert Benchley, écrit en 1930. Alors, c'est un texte que j'ai lu très jeune, et qui ne définit rien, qui ne fait rien, qui annule tout. Et cette notion d'annulation de la chose qu'on propose, et de proposer une chose déjà annulée, me plaît beaucoup dans l'humour. Je ne parle pas, ça ne fait pas rire. Alors c'est une des choses de l'humour qui me plaît beaucoup, c'est que l'humour n'est pas toujours drôle, et c'est ça qui est marrant dans l'humour. Voilà. Dans le comique, ou les formes de comique, on a ce qu'on appelle évidemment la vis comica, qui est une espèce de vis, une énergie, production, chose factuelle, une chose qui doit se produire par le corps, par le bruit. Tandis que dans l'humour, l'humour n'est pas forcément drôle. Et c'est en cela qu'il est drôle, mais j'essaierai de m'expliquer tout à l'heure. En tout cas, ce qui est intéressant et qui m'a plu tout de suite lorsque j'avais 13-14 ans, parce que j'étais très 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 précoce, et dans l'humour, c'est les premières choses que j'ai lues. J'ai lu Alphonse Allais, j'ai lu beaucoup d'humoristes, et le comique est venu après par le théâtre, c'est-à-dire monter sur scène et puis essayer de faire rire, ce qui est une chose différente. Donc l'humour m'est rentré, m'est arrivé. Et je parlerai du côté liquide de l'humour, enfin du côté limbe de l'humour, du côté, amniotique de l'humour, d'une chose dans laquelle on baigne. Alors que le comique est une chose dans laquelle on trempe, dans une chose qui produit avec des chutes physiques et des chutes dans le texte, enfin, des ruptures, des violences. Il y a beaucoup de violences dans le comique, il y a une transgression parfois. C'est pour ça qu'on met des masques de temps en temps, pas toujours. Mais l'humour est une espèce de... C'est entre l'habitus et l'exis, pour parler comme un humoriste malheureusement décédé aujourd'hui, Pierre Bourdieu, que j'aimais beaucoup. C'est à la fois une chose dans laquelle on trempe, et j'ai trempé très tôt avec ma famille, et mes parents n'étaient pas des humoristes, comme on en voit des professionnels aujourd'hui, d'origine très très simple. Ils ont travaillé tous les deux à 16 et 17 ans, après la guerre, la dernière guerre. Mes parents avaient cette habitude, du côté paternel comme maternel, de blaguer, malgré les problèmes qui étaient fort nombreux jusqu'à la mort de mon père. Je ne parle pas de ma biographie qui n'a aucun intérêt, mais de l'humour qui, lui, a plus d'intérêt. Et donc, j'ai baigné là-dedans, et il y avait cette habitude de plaisanter, pas seulement pour... au moment où il faut plaisanter, la communion de la petite, le décès de la tante, l'héritage que nous n'avons jamais eu, les réussites aux examens qui étaient très médiocres, me concernant, mon frère moins. Mais bon, pour plein de raisons, c'était permanent. Ça ne veut pas dire qu'on rigolait tout le temps, parce que l'humour n'est pas drôle tout le temps, et c'est ça qui est marrant. Mais c'était, je n'aimais pas un modus vivendi, mais une espèce de... oui, d'habitus transmis du côté de ma mère, parce qu'elle était d'origine suisse. Pas banquier, hein, mais son père était vaché en Suisse. Je ne raconte pas ma vie, hein, je parle de l'humour. Et mon père, d'origine aussi, est très, très, très simple, très modeste. Mais il y avait cette espèce, peut-être que connaissent et que sans doute ont connu les jeunes juifs dans la culture juive, ou d'autres, ou quelques jeunes anglo-saxons. Voilà, une espèce de, comme ça, de réflexe qui est de s'habituer à l'humour. Après, le comique est venu aussi, mais j'en parlerai. Pour dire que l'humour, pour moi, est une chose liquide, j'ai envie de donner des exemples dans des textes, des choses dans lesquelles on baigne, une espèce de lymphe, si vous voulez, une chose lymphatique, comme ça. J'ai été élevé là-dedans, et quand j'ai fait du théâtre, j'ai travaillé tout de suite sur le comique, j'ai fait du café-théâtre. Je ne parle pas de ma biographie, là, je parle du comique. Et le café-théâtre, c'est les années 70, c'était évidemment... historiquement, c'est important quand on fait les choses. C'est-à-dire, il y a un moment où vous faites les choses dans la vie et la société fait la même chose, ou l'inverse. Par exemple, j'ai eu 18 ans quand la société a eu 18 ans, 68, c'est pile poil. La société a le même âge que moi et vice-versa. Et je sortais de gros problèmes, parce que j'avais perdu mon père de façon très tragique. Et en même temps, j'étais pas tout seul. Il y a quelque chose qui se passait, il y avait des événements. Je passe là-dessus, le rock, enfin plein de choses qui m'intéressent, le théâtre m'est arrivé, mais surtout aussi dans le niveau de l'humour en France, qui n'était pas un pays spécialiste de l'humour en France, pas du tout, on en parlera, entre le mot humeur, tel que l'entendent les Français depuis le 16e, enfin du 17e et 18e siècle, et l'humour, tel que l'entendent les Anglais, je le prononce volontairement à la ch'ti, on a des grandes différences. Et en France, à ce moment-là, Pauvert, Jean-Jacques Pauvert, éditeur, chez Julliard aussi d'ailleurs, Harakiri, Mensuel et Hebdo, sortaient un grand nombre de dessinateurs, de gens, d'auteurs américains, juifs américains, venant du New Yorker, du Harper Magazine, d'autres aussi, d'autres nationalités, tchèques en particulier. On ressortait pour la énième fois l'anthologie de l'humour noir. Et on a eu accès à plein d'auteurs, d'écrivains, dont je vous ai lu un extrait, Bechtel, un vieux monsieur. Et j'ai découvert ça avec ravissement dans une collection qui s'appelait « Humour secret ». Voilà. Et qui n'était plus le comique à la française. Je faisais du comique sur scène au café-théâtre, c'est-à-dire fallait y aller. Et parce qu'on faisait la quête avec, on n'était pas déclaré, vous pouvez le dire, c'est maintenant. Et il fallait foncer avec des gens qui allaient faire pipi, qui partaient justement avant la fin, qui passaient devant vous. Mais l'humour, c'était autre chose. On a eu des grands dessinateurs, toujours, Reiser, enfin un certain nombre de gens. On ressortait, SMP existait déjà, pour parler de la France uniquement. Hein. On avait les dessins du New Yorker qui arrivaient, on avait les grands humoristes des pays sous tutelle. Les dictatures, en particulier certains dessinateurs argentins, je pense à l'Argentine, entre autres. Et donc, on avait... j'ai eu accès, comme ça, par les copains qui lisaient, à ce type de texte et de rencontre avec l'humour, plus qu'avec le comique, qui ne s'oppose pas, évidemment, mais C'est là que j'ai rencontré Benchley, j'ai rencontré Thurber, j'ai rencontré des auteurs extraordinaires. Mark Twain aussi, qui a été mon premier spectacle en solo quand j'ai eu 27 ans. On le connaît comme évidemment l'auteur américain, le premier écrivain américain, d'après Hemingway, enfin, avoir écrit pour l'Amérique et avec la langue et les langues américaines. Mais Mark Twain était un grand, grand humoriste et mon premier spectacle en solo, après 6-7 ans de métier, était sur l'humour populaire américain lié au blues, lié évidemment au prêche dément des évangélistes de l'époque, et puis aux histoires absurdes de nonsense. On va parler du nonsense après, un petit peu, sans prêcher, je n'ai rien préparé vraiment. Et donc l'humour a été pour moi, je le répète, une espèce de bain, et quand j'ai fait ma compagnie, après avoir travaillé dans des centres dramatiques, tout ça, sérieux, des trucs bien, vachement bien, hein, des trucs super, quand j'ai fondé ma compagnie, on l'a basé avec d'autres camarades, hommes et femmes, enfin garçons et filles, sur l'humour et l'imaginaire. J'aimais beaucoup la bande dessinée, j'aimais beaucoup les polars aussi, dans lequel il y a aussi, on pourrait parler de l'humour et des auteurs policiers, je parle de Jim Thompson, enfin de certains grands. Voilà, donc quand j'ai fait du théâtre, j'ai essayé de faire du théâtre humoristique et pas comique, mais j'ai fait du comique, la comédie dell'arte en particulier, j'ai travaillé le masque que j'adore, mais on ne peut pas faire d'humour, c'est impossible, c'est pas de l'humour. L'humour est intestin, l'humour n'est pas cérébral et intellectuel, c'est physiologique. Je connais des intellectuels qui sont dépourvus d'humour, et leur intelligence d'ailleurs, ou leur savoir, ou leur érudition plus exactement, ne leur servirait à rien. Sauf s'il la détourne, ou elle la détourne. Et j'ai connu des gens très simples qui avaient un humour fabuleux. Et l'inverse aussi, des gens très intelligents qui avaient beaucoup d'humour. On connaît certains grands chercheurs, certains qui ont un humour extraordinaire. Je pense que vous en avez eu ici qui sont venus, et que ce soit paléontologue, qu'ils soient. Voilà, on a. Voilà. Et donc j'ai eu cette chance, après 68-69, d'avoir un grand nombre en matière éditoriale, de journal, de BD, et aussi au Café Théâtre, à Paris, où j'allais voir Romain Bouteille, par exemple, qui était une espèce d'humoriste incroyable, avec une formation très mathématique, enfin qui était un matheux, un pur matheux. Et l'humour et les maths, aussi, ça serait une chose intéressante. Moi qui suis un allumé, enfin je veux dire, si je suis nul en maths, un alphabet, je ne sais pas comment ça s'appelle, l'équivalent, mais j'ai toujours admiré, j'avais des copains matheux qui avaient un humour, mais absolument, qui ne faisaient rire que. Mais comme l'humour n'est pas drôle, et c'est ça qui est marrant, c'était bien aussi. Et Romain Bouteille, donc matheux, je ne sais pas s'il n'a pas fait Central, enfin bon, faisait un type de théâtre au Café de la Gare, ça s'appelait, qui n'a rien à voir avec ce qu'on a connu après, y compris dans les années 70-80, avec Le Père Noël est une ordure, qui était déjà le comique français. Le comique français a repris ses droits, il est bien, il y a des choses. Mais là, on était sur le nonsense, l'absurde et le politique. Le contenu politique aussi, les contenus politiques. Donc j'ai vu Patrick Dewaere sur scène, Miu Miu, Coluche à ses débuts. Ça s'appelait « Allume, j'étouffe, des boulons dans mon yaourt » et on payait pas cher. Il y avait une roue à l'entrée, il y avait 3 francs, 4 francs, 5 francs, 0 francs, et selon la chance qui vous était accordée par par la roue, vous payez 10 francs maximum, voilà, et donc j'ai vu. Et là, c'était vraiment, on avait à l'époque aussi Topor, par exemple, on avait tout le mouvement Panique, qui dessinait aussi des choses qu'on pouvait voir dessiner. Arabal, dans un peu un autre genre, mais il s'est pris beaucoup au sérieux après. Mais on avait un tas de choses, Roland Dubillard, par exemple, qui nous a quittés il y a quelques mois, qui était un auteur à la fois de théâtre et un poète. On va parler de la poésie et de l'humour, c'est une chose extraordinaire aussi. Mais on va donner des exemples, parce qu'on commence à se faire chier un peu. Hein. Mais voilà, donc je suis né à une époque où aussi le rock bougeait, ou le jazz bougeait, j'aime beaucoup le jazz et tout ça, et plein de choses bougeaient, la musique baroque commençait à émerger et tout ça, et le cinéma, puisqu'on parlait et l'humour et le cinéma, et le burlesque et le cinéma, et le nonsense, voilà. Donc, je suis resté là-dedans, j'ai fondé ma compagnie en 81, comme tu l'as dit, soit 79-81, avec Mark Twain, et puis avec un spectacle qui s'appelait « L'odieux percolateur », où, dans un décor absolument dingue, j'avais mis un certain nombre d'auteurs non pas comiques. Il y avait même Freud dedans, qui est un grand humoriste aussi, mais des gens comme Benchley, Thurber, d'autres moins connus, dont un auteur qui est dans l'anthologie, dont je cherche en vain les écrits, qui s'appelle Ferry, hein, Jean Ferry. Un texte qui s'appelle Le Tigre Mondain, donc j'avais mis comme ça aussi Ring Lerner, enfin bon, des grands auteurs, dont certains ont été réédités récemment chez 10-18, vous pouvez les trouver, Ring Lerner, un auteur fabuleux. Bon, plein d'autres, on ne va pas faire de l'érudition, Benchley qui est là, James Sorber aussi. Et j'ai fait un spectacle comme ça sur le nonsense. Et pour l'avoir joué à la Rose des Vents, qui existe encore, un lieu qui était tout neuf à l'époque, devant une salle avec des gens de la culture, enfin je veux dire, vraiment, ça avait du mal à passer, on m'a dit, il faut faire plutôt du comique. Et après je l'ai joué, on l'avait joué 8 jours, mais après on l'a joué au Prato, maintenant qui est une autre salle, c'était pas le Prato qu'il avait, dans l'ancienne filature, avec un public jeune qui sortait et qui lisait, qui avait mon âge, ou 25 ans, ou un peu moins, et qui lisait les BD et qui avait été fanat de tout ce courant, de tous ces courants. Là, on a tenu, parce qu'on pouvait y rester, on a tenu 15 jours, 3 semaines, parce que, évidemment, ça correspondait. Donc, je me dis, putain, le nonsense arrive en France. Hein. On avait eu au cinéma, on en parlait tout à l'heure, Buster Keaton, fin des années... qui sortait à la Pagode, en Paris, on pouvait revoir tout Buster Keaton, on pouvait revoir aussi Harry Langdon, on pouvait voir un certain nombre de grands burlesques qui ne fonctionnent pas sur le pur comique. Voilà. Je vais arrêter un petit peu là-dessus. Donc ma pratique théâtrale, et je l'ai gardée, après j'ai monté des choses absolument épouvantables et sérieuses et pas humoristiques du tout, mais dans la pratique, dans la vie, dans les rapports sociaux, que j'ai avec les gens, c'est toujours très important. Et on me dit, on n'a pas toujours de l'humour. Je travaillais ce matin avec un atelier de gens qui sont en souffrance psychique. Et une jeune femme est arrivée et elle m'a dit, parfois on ne peut pas se défendre, j'ai mal dormi, elle pleurait, etc. Bon, voilà. Et on travaille sur des textes humoristiques. On ne travaille pas du tout sur... Et elle m'a dit, comment on fait pour se défendre? Et c'est une belle question. Et j'ai dit, faut avoir de l'humour, chose épouvantable, on n'a pas d'humour, enfin c'est pas un compte en banque, c'est pas une chose. Et en même temps, j'ai dit, bon, pendant l'atelier de 2 heures, si j'ai ou on n'a pas d'humour avec mes partenaires, elle s'en va, cette dame, cette jeune femme, elle s'en va. C'est-à-dire qu'il y a une façon aussi de travailler, qui est évidemment de manquer d'esprit de sérieux, d'être très sérieusement drôle, et d'être, voilà. Alors on parlera de toutes ces choses-là sur l'humour qui me plaît beaucoup et je répète que j'adore le comique et le comique à se taper le cul par terre, vraiment pas. J'aime beaucoup ce que tu disais, le rire incoercible, enfin le rire irrésistible, le rire à faire pipi dans le marron, mais vraiment, ça j'aime. Ça me reste, ça je ne vais pas le mettre de côté, mais l'humour, je sors dans la vie avec, c'est-à-dire je vis. Il y a une quotidienneté de l'humour, il y a un côté liquide. Parfois on ne l'a pas, j'ai des gens, mais ça se transmet. Ma fille l'a eu. Mais elle aurait pu me le refuser, dire papa, je t'emmerde avec les idées politiques, 27 ans, je t'emmerde, tes idées politiques, ton humour, j'en ai rien à foutre. Mais effectivement, ça se transmet, c'est terrible. Et j'ai vécu, et puis j'ai fait cette fille avec une femme qui a aussi de son côté, son père avait comme ça, on ne pouvait pas rentrer chez mon beau-père sans que, ah, c'est encore vous, bon, bah, je m'en vais, me disait mon beau-père. Bon, et c'est drôle, si je n'avais pas le sens de l'humour, je m'en allais, on sautait sur la gueule et tout, enfin bon. Voilà, il y avait une chose comme ça. Une espèce d'habitus familial qui était que, voilà, alors on en reparlera. Je parlais tout à l'heure, bon, je vais revenir à Benchley, ce que j'aime aussi des choses, je saute du coq au cheval, ce que j'aime beaucoup dans l'humour, c'est de créer des choses qu'on annule et d'annuler des choses qu'on crée, un peu comme ça, voilà. Alors il y a un autre texte de Benchley, donc c'est des articles qui paraissaient dans le New Yorker, une grande école et le dessin. Je vous conseille les dessins du New Yorker qui sont parus en intégrale, qui sont fabuleuses comme leçon d'humour. Alors, c'est « Est-ce qu'on rêve à l'envers ?» L'article de Bachelet. « Deux ou trois pêcheurs nous ont écrit pour nous demander si l'on rêve à l'envers. J'essaie en vain de saisir le rapport que cette question peut avoir avec la pêche. Du reste, je ne savais pas que ses correspondants étaient pêcheurs. » Là, on a un exemple type de choses qu'on construit, qu'on a. Quoi qu'il en soit, je crois pouvoir affirmer qu'effectivement, on rêve à l'envers. Autrement, comment expliquerait-on le bateau à vapeur? J'ai dans mes dossiers le récit d'un rêve qui devrait ôter tous les doutes à ce sujet. C'est un rêve rapporté à notre clinique du rêve par un homme qui, depuis, s'est rangé et est devenu père de famille, qui, par conséquent, ne souhaite pas surtout que son nom soit divulgué. Non qu'il ait honte du rêve, mais ça n'allait pas très bien à ce moment-là avec sa famille. S'il faut en croire cet homme, et nous n'avons aucune raison de mettre sa parole en doute, il avait eu des ennuis d'affaires dans les jours qui ont précédé le rêve et avait pris la décision de se mettre au lit en remontant ses draps jusque sur ses oreilles. Et cela se passait peu avant midi. Il n'avait aucune intention de s'endormir, mais de fil en aiguille, il s'assoupit. Et avant même de pouvoir s'arrêter, il était parti à toute allure dans un rêve. Dans ce rêve, il se trouvait tout habillé dans un grand restaurant brillamment illuminé, mais ne se dépêchait pas pour prendre un train. Comme c'est curieux, pensa-t-il. Mais il n'y fit guère attention sur le moment. Il se trouvait donc apparemment tout habillé dans ce restaurant. Il ne courait pas après un train. Puis, il se réveilla en sueur. Le rêve l'avait tellement énervé qu'il retira tous ses vêtements. Alors, dans un restaurant, courut après un train qui partait du vestiaire juste à ce moment-là. Et il le rata. Voilà donc un rêve qui contredisait directement son expérience. Nous l'appellerons le cas A. Le nom de la personne vous sera fourni sûrement. Il s'agissait de Georges Louranet, qui est un con. Le cas est presque aussi étrange et non moins impressionnant. Alors là, il fournit la preuve que l'on rêve à l'envers de façon lunette. Dans ce cas, le rêveur est une femme. Mais ne sommes-nous pas, dans le fond, tous des rêveurs? Elle tient beaucoup d'ailleurs à ce que nous citions son nom, hein, que son nom soit rendu public, et aimerait qu'on l'invite à danser d'ailleurs à propos de cette femme, la valse de préférence, mais un peu autre chose aussi. Alors dans son rêve, cette femme se trouve dans une serre rempli de plantes exotiques, placé dans une sorte de funiculaire à flanc de montagne. La montagne était un tout petit peu moins large que le funiculaire, de sorte que les extrémités de la cabine dépassaient des deux côtés, rendant difficile la circulation automobile très intense à cet endroit. Dans cette serre se trouvait un élan dur d'oreille qui s'était débrouillé pour entrer, avec des chevelures de l'écran. Cet élan n'entendait pas un mot de ce qu'elle lui disait, de sorte qu'elle continuait à travailler à sa tapisserie qu'elle devait avoir terminée avant que la serre n'arrive au sommet de la montagne au terme d'un voyage de 11 heures. 11 heures en partant du bout de East Street, la 14e rue. Hein. Ce qu'il y a d'extraordinaire, alors c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il arriva exactement l'inverse à cette femme le lendemain. Elle ne se trouva pas dans une serre funiculaire. Elle ne vit pas des lançons et elle n'avait jamais entendu parler de tapisserie. Et maintenant, messieurs les scientifiques, débrouillez-vous avec ça. Voilà. Donc, c'est des textes, de choses qui me plaisaient, qui me plaisent toujours. On parlait tout à l'heure aussi dans l'humour, de choses absolument séduisantes. En plus, quand vous le trimballez, l'humour, non pas. J'allais dire, on dit, Freud. Dit Freud. Alors ça, c'est une chose aussi qui m'a plu quand j'avais acheté. Celle-là, elle a été modernisée un petit peu. Vous le connaissez certainement, pas en doute. Freud, le mot d'esprit, c'est rapport avec l'inconscient. Alors il y a tout ça à lire. Il faut être germaniste et même aussi un peu compétent en yiddish aussi. Voilà. Freud est très drôle. Lire là-dedans, c'est épatant. Et ont été édités après, a posteriori, puisque ce texte-là date de 1928 et l'autre date d'il y a 10 ans avant, le mot d'esprit. Et ça s'appelle Appendice l'humour. Et la première fois que j'ai acheté ça, je pensais que l'humour était un appendice. C'est mon frère qui a acheté ça parce qu'il est psychologue, son métier. Il aimait beaucoup Freud, il aime toujours beaucoup Freud. Mais je l'aime bien quand même. Et ça s'appelle Appendice l'humour. Et longtemps, j'ai voulu définir l'humour par. Je pensais que Freud avait marqué un appendice l'humour. Ou l'humour appendice. Ou l'humour appendice. Voilà. Et c'est très drôle ce qu'il dit. C'est beaucoup plus drôle que dans le rapport. Il y a des choses épatantes aussi dans le mot d'esprit, son rapport à l'inconscient. Mais qu'il avait écrit en 1905. Celui-là, donc, est 20 ans après, bien 20 ans après. Le processus, dit Freud, ça m'a fait toujours rire. Le processus humoristique, dit Freud, peut se réaliser de deux manières. On dirait Benchley. Soit chez une seule personne, on ne sait pas s'il est sérieux ou pas. Chez une seule personne qui elle-même adopte l'attitude humoristique. Soit entre deux personnes dont l'une ne prend aucune part au processus de l'humour, mais dont la seconde considère la première sous l'angle humoristique. Quand pour nous en tenir à l'exemple le plus grossier, j'adore quand il dit l'exemple le plus grossier, cette histoire du délinquant mené à la potence un lundi matin et qui s'écrit « Eh ben dis donc, la semaine commence bien !» Texto. Pas « ben dis donc », mais « C'est lui-même qui fait l'humour !» dit Freud. « C'est le condamné à mort !» Le processus humoristique tout entier a pour théâtre sa propre personne. Et lui procure évidemment une certaine satisfaction. On comprend qu'un condamné à mort a besoin de satisfaction. Moi, l'auditeur désintéressé, je suis touché, pour ainsi dire, à distance, par l'attitude humoristique du criminel. Je perçois peut-être d'une façon analogue à la sienne le bénéfice de plaisir humoristique. Une forme de perversion dans l'humour, je vous dis, c'est une saloperie quand même. Hein. Nous dirons, pour nous résumer, dit Freud un peu plus loin, que l'humour peut être ou contre soi-même ou contre autrui. Il faut admettre qu'il procure à qui s'en sert un bénéfice de plaisir, et quand un bénéfice du plaisir analogue échoit à l'auditeur désintéressé de l'humour. Alors, j'aime beaucoup toutes ces choses-là. Voilà. Alors il dit une chose quand même étonnante. Bon, alors ça, on parlait seulement de l'humour juif, qui est quand même, on le sait, est né, a évolué dans tous les ghettos. C'est un humour absolument fabuleux, enfin je veux dire qu'il y a une histoire ou des histoires fabuleuses, souvent caricaturées. Freud dit, l'humour a non seulement quelque chose de libérateur, hein, ça je pense que c'est repris dans l'anthologie de Breton, analogue en cela à l'esprit, au sens faire de l'esprit, que nous autres Français connaissons bien, et au comique, mais encore quelque chose de sublime, alors là c'est la traduction de l'allemand, et d'élevé, trait qui ne se retrouve pas dans ces deux autres modes d'acquisition du plaisir par une activité intellectuelle. Le sublime tient évidemment au triomphe du narcissisme, dans l'humour, à l'invulnérabilité du moi qui s'affirme victorieusement. Le moi, dans l'humour, se refuse à se laisser entamer, à se laisser imposer la souffrance par les réalités extérieures. Voilà. Bon. Et ça me plaisait beaucoup, et c'était appendice, c'est trois pages. Hein. Il y a trois pages, il y a ça, pour le rapport d'esprit, sur lequel tout le monde travaillait, quoi, hein. Et moi c'est toujours l'humour appendice. Voilà, donc ça m'a plu. On va prendre des exemples. On va aller. Alors, il y a évidemment sur la défense et l'attaque dans l'humour. Et on dit l'humour, c'est une forme de mise à distance. Et c'est un mot que je connais très bien, puisque dans le théâtre, on a eu évidemment, et dans les années 70, la grande mode. Parfois, c'était une mode, mais aussi un vrai travail sur la notion de distanciation que Bertolt Brecht, traduite comme cela en France. Et Brecht lui-même, d'ailleurs, qu'on a pris et qu'on prenait à l'étoile pour un mec absolument chiant, enfin, je veux dire, absolument soviétique, enfin, qui était quelqu'un qui avait une très grande culture littéraire, énormément d'humour. Et quand Brecht parle de distanciation, ça m'est venu longtemps après, pour avoir travaillé, par exemple, sur des textes de Brecht, comme Dialogue d'exilé, quand il est parti, il s'est réfugié au Danemark pendant un moment avant de partir aux États-Unis. Et donc au théâtre, c'est une chose intéressante. Et Brecht insiste énormément là-dessus, sur la notion, dans les notions de distanciation, y compris dans l'achat du cuivre, quelques ouvrages théoriques, avec beaucoup d'humour. Avec beaucoup d'humour. Et ce qu'on a mal compris, on a compris une chose absolument française, ce que Freud appelle l'esprit ou l'ironie. Et c'est après, c'est en lisant Bourdieu, même Barthes aussi d'ailleurs, donc des gens vraiment sérieux, que j'ai compris la notion, la différence entre l'humour par exemple et l'ironie. La notion entre l'humour et le sarcasme, qui sont des positions dominantes, symboliquement. Je pense, pour dire une caricaturée, l'ironie, qui a des très bonnes choses aussi, qui peut être une arme. On a chez Voltaire des choses qui... Là, il faut battre quelque chose. C'est intéressant. Mais c'est toujours une position dominante, c'est toujours quelqu'un qui fait pipi sur quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un de haut qui pisse sur quelqu'un d'autre. Que ce quelqu'un soit un noble ou un gueux. Il y a toujours une position de domination. Et moi, je dis toujours, pour moi, définir l'humour, et par exemple l'ironie, ou le sarcasme, qui est la pire des choses. On a affaire aujourd'hui à des fabriques de sarcasme, dans les humoristes professionnels, qui affligent nos écrans. On a des comiques de service. Comiques de service. Et on a, je dis toujours, l'inventeur, le premier comique a inventé le poil à gratter, si vous voulez. Et la première victime du poil à gratter a été un humoriste. la différence pour moi, c'est pour ça que je pensais ça dans ma tête quand j'étais jeune, et que entre l'humour et on a l'esprit, le sarcasme, on a une position dominante d'éloignement de distance. Or, quand Brecht, par exemple, parle de distance en termes théâtraux, on ne va pas revenir là-dessus, sur les combats, on s'en fout. Chose dont Brecht dit d'ailleurs que ça existait complètement chez nos anciens, chez Goldoni, chez... On a des techniques de distanciation chez les Grecs, évidemment, mais enfin, dans les... Et on a traduit, nous, comme ça, inconsciemment, par éloignement. Et quand je travaillais dans des mises en scène avec des comédiens, des jeunes comédiens, qui la distanciation, ce n'est pas l'éloignement. C'est l'implication complète. Il faut être impliqué complètement. Un humoriste est quelqu'un qui s'implique complètement dans son humour. Alors ça ne se voit pas, on peut avoir comme des proches, par exemple quelqu'un un peu comme ça, déjeté, comme ça, qui s'en fout de tout. Mais qui, quand il parle de son cancer, parle réellement, il a le cancer. Il y a un article sur le cancer, c'est extraordinaire, mais il a le cancer. Mais il ne dit pas, il ne ment pas, il plaint. Il dit le premier qui me plaint, je quitte le plateau. Voilà. Il y a une chose comme ça. C'est-à-dire qu'on rit du côté où on a mal aussi. Ça ne veut pas dire que c'est du dolorisme non plus, on peut être... Voilà. C'est le contraire du cynisme, qui sont toujours des points de vue de domination un peu scolastique, c'est-à-dire qu'on a une distance. Ouais, une distance, il y a plein de choses, ça, je vois les choses, regardez-les. On a le sarcasme, par exemple, qui est la chose épouvantable. Alors que l'humour est impliqué. Un humoriste, ou une humoriste, on va parler des femmes, ça, qui n'ont pas eu droit à l'humour, mais comme elles n'ont pas eu droit à grand-chose, l'humour non plus. En expression. Et dans l'humour, on a une implication. Dans la distance, on a une implication. Évidemment, dans l'histoire abstraite du condamné qui dit en passant à la guillotine le lundi, la semaine commence bien, mais on a une espèce de douleur humaine et dans l'humour juif, né, je le rappelle, comme d'autres humours, dans l'exploitation, dans les ghettos, tous les pays de l'Europe de l'Est et aussi du Sud, on a des exemples, je ne vais pas y reparler ici, mais extraordinaires. On a cette espèce de souffrance qui est assumée, quand c'est de la souffrance, mais parfois c'est pas, hein, évidemment, la fameuse blague en 41-42, juste avant l'étoile jaune, qui courait dans Paris, dans les quartiers encore juifs, qui était, tiens, il paraît que c'est les juifs qui se racontaient ça entre eux, tiens, ils arrêtent tous les coiffeurs et tous les juifs. Pourquoi ils arrêtent les coiffeurs? Et voilà, hein, les juifs se racontaient ça au café, là, c'est une blague qui courait dans Paris, pourquoi ils arrêtent les coiffeurs, c'est curieux. Alors qu'il n'y avait pas encore le... Bon là, ça, juste avant 41, c'est une blague qui courait, et on fait, non pas du malheur, une chose drôle, y compris d'ailleurs dans les positions les plus terribles, effectivement, dans les camps d'extermination, c'était très dur, mais il y en a, il suffit de relire Rescapés et naufragés de Primo Levi, on a des choses parfois incroyables quand on ne peut pas, on ne peut plus. Quand on ne peut plus manger, on ne peut plus se tenir debout. Il y en a même chez Anthelme, hein, dans l'espèce humaine, pour avoir travaillé beaucoup sur sur cet univers-là qui n'a rien de drôle, mais pour parler de ces cas limites et d'en parler après, c'est sûr que l'humour est irrigué aussi par un certain nombre de souffrances et qui demande, pour qu'on s'en détache, qu'on soit impliqué. Donc, pas confondre distanciation et éloignement, kilométrage, on ne prend pas, c'est distance. Ceci n'est pas moi. On dit simplement ceci, c'est un sentiment comme un autre. Peut-être que j'ai tort. Bref, je prends l'exemple de Jean, pour travailler avec ses comédiens, vous assistez à un accident. Comment décrit cette scène? En fait, comme les gens, un accident, il y a eu un piéton de renversé, on se met à 20 là, on se met tous, tout qu'on est là, et on dit, qui est, comment tu racontes ça toi? Ben, tu n'es pas là, Jacques Marquiam, puis tire. De toute façon, moi, j'aime pas les accidents. Ouais, mais enfin, ouais, ça, il est toujours bourré, lui. Alors, on a des points de vue, on dit des points de vue. La multiplicité des points de vue. Voilà. Et la distanciation. Mais si vous jouez l'alcoolo qui est là, ou si vous dites, ah ben moi, je n'ai rien vu, ou au contraire, moi, ça m'excite complètement de voir un accident, les gens qui s'arrêtent pour voir, et ben, je me mets à fond dedans. La distanciation, c'est pas... C'est, voilà. Sauf qu'on dit, on montre bien que c'est plusieurs. Et c'est une chose qui m'a toujours touché, que quand on me dit « Ah ouais, mais toi tu le prends avec humour », comme on dit « prendre avec des pincettes ». On ne prend pas avec des pincettes, on prend en pleine. Et il y a des moments où on n'a pas d'humour. On n'a pas d'humour. On n'a pas d'humour. Je veux dire, en voiture, quand je me fais faire une queue de poisson, j'essaye de ne pas en faire, je suis un con. Je n'ai aucun humour. Et si ma copine, ou mes copains, ou ma fille, là, papa, t'es vraiment un con, t'es vraiment un gros con. Et c'est vrai, parfois, une place de parking qui est prise, un truc qui commence pas à l'heure, je suis con. On n'a pas tout le temps de l'humour, c'est pas... voilà. Mais en même temps, si on vous le fait sentir, ça fait mal quand même. En principe, voilà, on n'est pas de corvée d'humour tous les jours. Voilà. Donc, j'ai un petit peu parlé de moi, j'aurais beaucoup de choses à dire aussi sur le rapport entre la poésie et l'humour. Il y a aussi, évidemment, là, on a des listes incroyables. Alors, effectivement, moi, je dois donc mon amour de l'humour nourri, en tout cas littérairement, par la BD. On va parler du cinéma et tout ça, ça serait trop long. Par un monsieur qui s'appelle Jacques Sternberg, qui est un monsieur qui a été très très important, qui a été éditeur, auteur aussi, un peu de science-fiction, et qui a relancé, en particulier chez Julliard à l'époque, tous ces auteurs dont je vous parle, Einstein. Mais aussi, quand j'ai travaillé sur d'autres spectacles, un poète par exemple qui s'appelle André Frédéric, que vous malheureusement vous aurez beaucoup de mal à trouver, qui était un grand copain de Jean Carmet, et j'avais fait un spectacle sur lui, qu'on a tourné dans toute la France, personne, on l'avait même joué dans les prisons, qui est un personnage extraordinaire. C'est lui qui a inventé le mot ringard, par exemple, avec Carnet. Et il a travaillé avec, par exemple, une troupe en France, dans laquelle a commencé De Funès, qui s'appelait les Branquignoles, de Robert Derry et Brosset, dans la fin des années 60, d'où sont sortis plein de gens extraordinaires, mais qui étaient nouveaux en France, c'est-à-dire sur le nonsense. Il jouait à Paris, par exemple, le Branquignoles, dans les années 60, 70, des spectacles, et il le jouait un mois à Paris, deux mois à Paris, quand ça marchait bien, et il le jouait un an à Londres, c'est la version anglaise. J'ai un oncle qui a travaillé dessus, avec les Branquignoles, il y avait Jacques Le Graff, il y avait plein de gens, d'aimants, des musiciens, Jacques Calvi, voilà. Et on avait le nonsense, pops à l'anglaise, voilà, on avait des spectacles, j'ai même vu De Funès sur scène dans la grosse valse, on avait des spectacles de nonsense. Alors, nonsense, paraît que la distanciation, c'est pas le pas de sens. Le nonsense, c'est pas le pas de sens. C'est pas le non, il n'y a pas de sens. Bon, là, on peut, dans le généralisme, parfois, on a pas de sens, il n'y a pas de que. Non, il y a un sens qui est non. Le sens, c'est que c'est non. Voilà. On a ça chez les Monty Python, parfois, on a ça chez les Marx Brothers, en particulier chez Groucho Marx, qui est ce principe d'annuler une chose qu'on construit, toujours. C'est-à-dire que, voilà, hein, quand Groucho Marx dit, par exemple, cette phrase que cite... qu'on cite souvent, qui est quand Groucho Marx dit « Moi, je ne serai jamais partie d'un club, je ne serai jamais président d'un club qui m'accepterait comme membre. » Voilà. Je ne pourrais jamais diriger un club, au sens anglo-saxon du terme, dont je serais membre. Voilà. C'est-à-dire que là, on a une espèce de retournement. Alors, parler rapidement des poètes, pour ne pas vous lasser. Alors, j'avais aussi... dans les choses qui s'annulent aussi, on a évidemment le fameux interview de Mark Twain qu'il a écrit en 1899, par là justement, de cette fameuse interview où il s'annule lui-même au fur et à mesure de l'interview. Il y a un poète que j'aime beaucoup, dont je parlais, d'André Frédéric, dont il est très dur de retrouver les textes, et qui a écrit des flopées de poèmes et de choses drôles, magnifiques, complètement loufoques et moins officielles que des gens que j'aime beaucoup, évidemment, comme Renaud Quenot. Voilà. Alors, il y a un poète belge, un voisin belge qui est mort il y a quelques années, 3-4 ans, qui s'appelle Norge, que vous connaissez peut-être, certainement, que j'ai beaucoup aussi dans des spectacles sur l'humour. J'ai fait un spectacle qui s'appelle Hume 1 et Hume 2, sur la sexualité, le premier sur l'humour sexuel, puis l'autre sur n'importe quoi, sur les animaux, par exemple, les animaux et les enfants. Ce sont aussi des... parce que vous pouvez tout prendre avec l'humour. Et Norge, vous les trouvez encore, et toi, c'est chez Gallimard. Et des textes, des espèces de petits poèmes très courts qui définissent pour moi l'humour, alors le rapport à la poésie aussi. La brebis galeuse. Justement, la plus belle brebis devint galeuse. Comme c'était la plus belle, on aima bien cette gale. Et d'autres brebis voulurent devenir galeuses. Une seule brebis demeura sans gale. Eh bien, on lui en tint rigueur, et on l'a mis à l'écart, et on la nomma la brebis galeuse. L'adultère. « Faites entrer la reine !» dit le roi. Elle entra. Le cœur de son amant fumait sur l'autel du bourreau. « Et mangez-en !» dit le roi. Elle en mangea. « Eh bien !» dit le monarque. « Eh bien, répond la reine, si tu crois que tu vas me corriger avec des moyens comme ça. » Un petit texte très court. Un monde. « Allons, allons, vous liquidez un homme en deux ou trois coups de cuillère. Ah, peau !» Mais non, ça mérite le respect, un homme. Quel mystère, quel abîme, quelle surprise, tout un monde. Bon, d'accord, d'accord, mais si tout le monde se met à être tout un monde, faut bien liquider. Un pays, on fut heureux tout de suite dans ce pays. La neige était blanche, et les arbres verts. La viande était rouge et le charbon noir. Le ciel était bleu, la lune était jaune. Bon climat, bon esprit. Bon esprit, bonne humeur. Légumes habituels, pas de mouches, enfin, peu de mouches. Et de lions, pas du tout. On fut donc heureux. Sauf quelques personnes qui se tracassent toujours sur des points de détail. Le rossignol de Chine. Il y a une certaine façon de chanter chinois pour ces oiseaux-là. On n'y comprend rien. Au rossignol de France, on ne comprend rien non plus. Mais quand même, on sent qu'il parle français. Je prends les points courts, les traits. Alors, sur la longueur et la brièveté, je ne vais pas parler d'Alphonse Allais non plus, on a des romans humoristiques, des choses longues humoristiques. On a des nouvelles assez longues, on a Raymond Carver par exemple. Je parlais des femmes, je ne sais pas si on a encore un peu de temps, et j'aime beaucoup le lapidaire aussi dans l'humour, hein. J'ai des proches, enfin, vous savez. J'aime beaucoup aussi le long texte, il y a des longs romans, c'est très rare. Aujourd'hui, dans la littérature française, on a quelques auteurs, Éric Chevillard en particulier, mais très peu, on a la nouvelle, que j'aime beaucoup, hein, sketches, enfin, short novels. Et dans les grands romans, les grandes choses, les grandes œuvres, où l'humour circule tout au long, alors là, l'humour aussi est une chose liquide. C'est-à-dire que c'est pas drôle à chaque page, mais ça circule. Alors le premier du genre, il a été réédité, retraduit il y a 2 ans, je crois, c'est évidemment l'auteur anglais, je suis un fanatique des auteurs anglais du 18e siècle, Laurence Sterne, enfin, voilà, Sterne pour parler en S-T-E-R-N-E, donc la vie et opinion de Tristram Shandy. Tristram Shandy, voilà, alors c'est un livre que les surréalistes ont un peu manqué, il y a Swift aussi, évidemment, mais qui est dément, qui est entre Monty Python, c'est un livre sur un livre. C'est des histoires insensées, c'est assez gros, hein. Et où il raconte le livre qu'il est en train d'écrire sur des nobles décadents, sur des histoires de cul, de militaires qui ne veulent plus faire la guerre. Et on est à 200, à des années-lumière de Voltaire, que j'aime beaucoup, pour avoir joué Candide, que j'aime beaucoup, j'adore Voltaire. Bon, ça, mais il y a le style, il y a Voltaire, enfin, je veux dire, il y a le fauteuil Voltaire. Là, on n'est pas du tout là-dedans, on n'a aucun terme, c'est dément, c'est très long. C'est une espèce de pérégrination. Extraordinaire, qui est la matrice vraiment du grand humour anglo-saxon. On a un roman américain qui vient d'être sorti en 18, qui s'appelle La Conjuration des imbéciles de John Kennedy O'Toole, jeune mec qui s'est tué en 68 d'ailleurs à 34 ans. Il était tellement nul ce bouquin et il avait 2 ans post-mortem, 2 ans après il a eu le Pulitzer. Ça s'appelle La Conjuration des imbéciles et vous riez. C'est gros comme ça. Un personnage aussi, il y a une espèce d'intellectuel dedans, mais chiant, qui fait chier avec une mère épouvantable qui picole et tout. Et c'est... On est loin du comique, enfin je veux dire du trash. Et il rencontre des gens, l'histoire d'amour qu'il a avec sa copine est démente. Ça varie entre Boris Vian et les Marx Brothers. Il fout la zone dans le roman. Il fout la zone dedans. Et il l'a dit, c'est pas bien ça, ça peut pas, on peut pas. C'est pas du tout abstrait. C'est pas surréaliste au sens petit du terme, j'aime beaucoup surréalisme, où effectivement on a... Voilà. Non, c'est... pour moi c'est des grands romans. On a aussi une écrivaine américaine qui s'appelle Grace Paley, ou la conseille, c'est chez Rivage Poche. Elle écrit des nouvelles un peu plus longues. Chez les Françaises aussi, il y en a qui commencent là. C'est une femme qui écrit ça, c'est une femme engagée en plus, c'est une femme qui a maintenant plus d'une soixantaine d'années, autant dire qu'elle a mon âge. J'ai aussi monté des textes d'elle, ça ressemble beaucoup à Carver, sauf que c'est le point de vue femme, réellement. Et que c'est d'une cruauté, et d'une drôlerie. Je sais pas quelle heure, je sais pas si j'ai le temps d'en lire une. C'est peut-être un peu tard.
Pour répétition.
Hein? Alors, celui-là s'appelle « Énorme changement de dernière minute ». C'est des nouvelles plus ou moins longues. Elle a écrit des romans aussi. Enfin des... Et les rapports aux enfants, aux hommes, aux copines, à l'univers, à divers très différents. Elle s'est beaucoup battue pour le, aux côtés des Black Panthers et tout ça. C'est une militante, hein, une grande féministe américaine, mais d'une enfin, belle écrivaine, très belle écrivaine, plusieurs prix. Elle est folle. C'est-à-dire que c'est, elle a ce nonsense qui était soi-disant accordé aux hommes, mais on sait bien que, effectivement, on n'a pas beaucoup d'exemples de. Mais les femmes, à part faire de l'esprit, Madame de Scudéry, enfin, dire le droit, ce droit-là, enfin, les femmes de la noblesse, n'ont pas eu, pas plus que. Si on fait l'histoire de la peinture, on ne peut pas citer plus. Hein, on fait l'histoire de. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses à rattraper, et ça se rattrape. Ça se rattrape énormément. Et j'attends avec impatience, parce que là, on me fait sortir les comiques féminins, par exemple. Comme s'il fallait, évidemment, ça se situait là. Et je pense que, pour avoir connu des femmes dans ma famille et tout ça, qui n'étaient pas été à l'école et tout ça, et qui étaient des femmes, une drôlerie, évidemment, dans ces... Et autour de moi, des femmes populaires, même. J'ai fait un jour un spectacle sur elles, elles au pluriel, et qui étaient une drôlerie, en scoltinant les gosses... parfois un peu moins chiant, le suicide du mari alcoolo, enfin des choses. Pour travailler avec des malades mentaux aussi, je l'ai pas demain matin à l'atelier, et là avec des gens qui sont en grande souffrance sociale et psychique, mais qui sont en milieu ouvert, là, à l'île sud. J'en ai trois dedans, j'ai essentiellement des femmes. Mais c'est extraordinaire. Ça fait 3 ans. On travaille là sur les commencements. Et ces femmes, dont certaines étaient très abîmées, par la vie, par plein de choses. Et quand on travaille sur l'humour, par exemple, on travaille sur les commencements. Qu'est-ce qui commence quand ? C'est quoi ma première fois, pas seulement sexuellement, mais c'est extraordinaire. On a toujours, comme avec un autre point de vue du monde, c'est le nôtre, mais on est un versant qui est celui des femmes. Et il y a qu'on fait la rue, on peut travailler dans la clocharde. Et c'est. On travaille avec elle sur atelier d'écriture un petit peu. Et voilà, donc je me dis, putain, les femmes, de la même façon qu'il y a peu de femmes cinéastes, quoi, qu'en France on en a quelques-unes maintenant. Non, mais l'histoire du cinéma, l'histoire de la peinture, l'histoire de la littérature, l'histoire du théâtre. On a quand même maintenant des auteurs femmes au théâtre, mais je veux dire, les quoi ? Vous en citez beaucoup, là ? Non, voilà. Pareil, elles ont été non privées de ça, donc dans le privé. Et pour avoir connu des femmes à l'humour extraordinaire, ma grand-mère, enfin celle qui m'a servi de grand-mère parce qu'elle m'a adopté ma mère, enfin bon, mais je parle pas de ma vie seulement, j'ai connu ces gens, ces femmes-là, mais tu veux trop le rire, Dieu, et voilà. Donc pour parler de l'humour, et Grâce Palais, mais il y en a d'autres, évidemment, on a Dorothy Parker qui est de la même époque que Benchley, plus noble, plus années 30 et 40, mais... une sacrée bonne femme. Et voilà, donc... bon, là, je vous ai laissé beaucoup. Il y a des proches aussi qui étaient un grand humoriste. Alors, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi, j'aime le comique, donc je suis un fanatique, évidemment, puisque il m'a fait aimer le théâtre de Raymond Devos, c'est tout ça qui jouait beaucoup sur les mots. Des proches, certainement, est un des derniers grands... d'abord, parce qu'il est... Alors, on n'a pas parlé du rapport aussi à l'écriture, à la matière, comment... Alphonse Allais, par exemple, aussi... plus traditionnel, plus français, mais avec des choses. Comment l'humour implique aussi dans l'écriture, dans le dessin, dans la cinématographie, une qualité d'expression, ou des qualités d'expression propres à l'humour. C'est-à-dire, si vous lisez Swift, évidemment, c'est très élaboré, au XVIIIe siècle, et que l'humour exige d'être bien fait. Comme le vin et l'amour, bien fait, ça ne veut pas dire... faire la somme théologique, faire... voilà. Et ce que j'aime chez Desproges aussi, c'est que c'était un grand lecteur, un grand passionné des grands écrivains, et il avait toujours honte de dire, il ne voulait pas monter sur scène, c'est Bedos qui l'a forcé, ouais, mais d'abord je ne suis pas comédien, en plus les écrits c'est vrai, mais je les répris dans des trucs de bas niveau, c'est la radio, c'est la radio, c'était la télé au début, c'est l'émission de Jacques Martin, c'est quand même pas gratifiant, c'est pas... Mais, quand on relit ses textes, c'est lui-même la façon, et moi, je, même y compris sa misogynie, des choses qui me gonflent un peu chez des proches. Mais on a, là, par exemple, on a eu, et les, bon, c'est très dur, je ne pouvais pas monter sur des proches, parce qu'il faut avoir des droits hein, très particuliers, et sa veuve est absolument chiante là-dessus. Mais on sait que pour même les jeunes générations, c'est-à-dire ma fille, ou les copines plus jeunes de ma fille, ou les gens plus jeunes de 20 ans, des proches est quelqu'un qui a débloqué aussi des choses. Voilà, hein, donc là je ne vais pas faire la sociologie à la mort-moi le pied. Voilà, donc je ne sais pas, peut-être...
On peut en parler un peu entre nous.
Voilà.
C'est vraiment attente et décharge, d'où l'éclat, d'où la violence qu'il y a dans le rire, et objet du désir qui se fait attendre et qui se donne. Alors que l'humour, ça s'apparente plutôt à un relâchement, il y a une harmonie qu'il n'y a pas dans le rire. Et je trouve que là, on perçoit quelque chose de très raffiné dans l'humour qu'on n'a pas du tout forcément avec le rire. Mm-hmm. Et d'abord, je trouve que ça fait du bien à entendre. C'est intéressant d'en prendre conscience. Et, mais ça pose aussi un certain nombre de petits problèmes que le bourdieusien que tu es peut-être...
Oh, je ne suis pas bourdieusien, je ne suis pas sociologue, mon Dieu.
En tout cas, tu l'as lu et je crois qu'il t'a intéressé.
Ouais,
et
ouais,
et du coup, dans l'humour, il y a quelque chose de sélectif.
Ah,
oui. Il n'y a pas dans le rire. Oui. Le rire est communautaire et rablaisien un petit peu.
Quand il est rablaisien.
Quand il est rablaisien, mais on fait rire des fous.
Oui.
À la radio, il y a bien des sûr. Rires derrière. Il faut qu'il y ait une communauté qui
rit. Ah oui, bien sûr.
Alors que l'humour, on peut être tout seul à faire de l'humour.
Oui, bien sûr.
Et du coup, qu'est-ce que tu fais de cet aspect sélectif alors, et cruel qu'il y a dans l'humour?
Alors,
c'est d'un point de vue social, il n'y a pas...
Voilà, j'ai insisté beaucoup sur mes origines, non pas pour faire étage de ma biographie, qui n'a vraiment pas d'intérêt paradigmatique, mais pour dire que dans les gens que j'ai connus, y compris TSF, où il y avait cette forme d'humour, à défaut d'autre chose, pas le comique. Pas le comique, le comique c'est un travail. Si vous faites du travail théâtral sur le comique, ou de danse, de la danse comique, ou... c'est un travail particulier, le masque est une discipline très particulière, pour parler de la tradition. Le comique, la chute, la rupture, le rythme, les rythmes, c'est très, très particulier. L'humour, par exemple, j'ai travaillé avec des comiques qui n'avaient aucun humour, c'est insupportable. Mais j'ai travaillé aussi avec des gens qui n'avaient pas la force de s'exprimer, dont ces femmes et ces hommes avec qui on travaille, qui ont des problèmes, ça, et qui ont un humour... Même quand ils arrivent sur leur traitement en pleurant, au bout de 2 heures ou 3 heures de boulot, pour parler d'autre chose, avec une distance, pour avoir ne serait-ce que 10 secondes de dire la semaine commence bien quand on va être coupé la tête. Là, d'avoir cette chose. Les femmes l'ont qui sont en rapport avec, souvent, avec des choses concrètes. Bon, le mec panique et tout ça, et voilà. On a ce qui n'empêche pas la souffrance. Mais pour dire que, effectivement, il y a un côté, on m'a dit l'humour c'est cérébral. Et je dis au contraire que l'humour est physiologique, il est là, il baigne entier, il est comme le bébé quand il est encore dans le placenta. Il y a une espèce de placenta, mais ça se transmet. Effectivement, par des modèles, je parlais d'attitude humoristique, d'une espèce d'exis à la Bourdieu, de transmission par grands-parents, amis. Par exemple, j'avais un grand-père qui a été prisonnier par la guerre, il avait arrêté ses études à 15 ans, et après la guerre... il a eu un petit boulot et il faisait des discours, par exemple. Et quand il y avait, dans le petit boulot, parce qu'il est passé après de prolo, petit fonctionnaire dans une boîte d'assurance, on demandait à M. Sarrazin, mon grand-père, qui n'avait pas fait d'études, mais qui était autodidacte en gros, de faire des discours pour les mariages de la copine. Et c'était un bisséculotte, en plus il aimait beaucoup la musique, donc il chantait. Et il faisait des discours ronflants, comme faisaient les aèdes grecs, enfin, je veux dire, des con... Et j'en fais. Alors ça, c'est une chose que si vous voulez que je vous fasse des discours de circonstances, j'adore. Enterrement, mariage. J'ai fait enterrement, pendaison de crémaillère. Donc lié à la vie sociale. Et mon grand-père faisait ça. Et quand j'étais gamin, il faisait des discours, c'est-à-dire qu'il écrivait, cet homme. Aujourd'hui. En ton jour, en ce jour, ah oui, t'es là-bas. En ce jour anniversaire, c'était drôle. Mais il y avait la cérémonie. C'était écrit, c'était torché. Voilà. Et donc là, j'ai appris aussi, mon père l'a fait par la suite, digne fils de son propre père, et moi, je l'ai continué à le faire. y compris quand j'étais étudiant. J'adorais faire des fausses conférences. Enfin, j'en ai même pas fait une fausse, et je m'en excuse. J'adorais faire ça. Des choses bidons, voilà, des faux commentaires de texte. Surtout que c'est le délire sémiologique à l'époque, quand même. Et donc, j'adorais faire ça. Et c'est l'humour. Le comique, c'est autre chose. Et donc, c'est vrai qu'il y a un côté... Effectivement, il y a des blagues que des chercheurs vont comprendre, mais dans l'humour, dans comment on le touche, les gens vont se dire, par exemple, il y a des gens qui disent, on ne comprend pas toujours ton humour, hein, dans les rapports sociaux, et c'est pas avec les gens les plus populaires, parce que ma famille est très populaire, que j'ai des problèmes. Hein. C'est, alors évidemment, au début, on n'est pas obligé d'accepter l'humour que j'ai ou qu'on a. C'est vrai que parfois, je veux dire, là, bon, je suis content de venir, enfin, ça me fait un peu chier quand même, je préfère être ailleurs. Bon, tu vas le prendre au deuxième degré si je le dis comme ça, parce que c'est pas vrai, évidemment. Quoique. Et. Tu vois ? Non, j'ai rien dit. Non, mais tu vois, et il y a des gens qui ont des antennes pour ça, qu'ils aient fait des études ou pas, et qui aient une espèce de. Mais ça, effectivement, il y a des blagues qui vont passer qu'avec des agrégés, enfin, il y a des blagues qui vont passer, mais j'aime pas trop ça, parfois on en fait, c'est vrai qu'une blague va passer s'il y a que des comédiens dans la salle, des metteurs en scène ou des historiens du théâtre, effectivement, rire du côté droit, mais je. Ça, c'est pour le comique, c'est pour avoir un effet. On dit, on parle d'effet pour le comic, c'est-à-dire un rendu, un renvoi. On sait quand les gens, c'est le salaire. Si les gens rient pas, t'es paumé. Si les gens rient pas dans l'humour, ou c'est, hein, c'est, oui. Il y en a que ça fait rire parce que ça évoque autre chose qui est peut-être comique. C'est voilà, on est dans l'ordre au contraire, c'est plus physiologique le aussi le. Mais effectivement, pour lire certains humoristes. Mais des proches étaient populaires. Haï, détesté aussi. En plus, il y a cette coupure-là qui est bien dans l'humour, c'est qu'on peut ne pas aimer. Par exemple, pour des gens, tu m'avais dit que tu n'aimais pas, je me permets de dire en public, tu n'aimais pas Tati, par exemple. Et ça, je comprends parfaitement. Par exemple, ces choses de répétition, de pratiquisme, de saut. Et puis, on préfère. Moi, j'adore les gens qui tombent, ça me fait toujours rire. Quelqu'un qui tombe, ça me fait rire. Mais en même temps, dans l'humour, les gens tombent intérieurement. Voilà. Les gens. Et si vous avez l'occasion de revoir des proches, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pareil que pour tout le reste. Hein. Je veux dire, merci, bonne soirée. Et c'est pareil, on peut aussi pas aimer un humour. Alors là, il manquerait plus que les gens n'aient pas non plus... c'est pas une chose universelle, voilà, qu'on accepte sans entendement. des humours qu'on ne supportait pas. On a parlé d'humour noir, humour cruel. Mais quand la personne qui fait... Je pense qu'il y a des espèces d'intuitions, d'antennes chez les gens. Alors ça dépend comment on le transmet. Il y a des humoristes complètement, hommes ou femmes, parfois complètement rébarbatifs, tu as raison. Ou très intellectuels. Il y en a un américain qui s'appelait Barthelme. C'est imbitable. Mais les matheux aiment beaucoup. Il est imbitable. Il fait des espèces d'équations humoristiques. Mais c'est super. En même temps, moi, j'ai demandé à des copains de m'expliquer. Il n'est pas réalité, il est édité, et c'est étonnant. C'est un monde complètement comme des gens nourris de mathématiques au sens noble du terme, hein, pas la mathématique utilitariste qui sert à nos chers ultralibéraux, mais c'est dément. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on est schizophrène et c'est drôle. Et on dit pourquoi c'est drôle, c'est pas drôle. Alors là, effectivement, il faut avoir les clés, par moment. Mais chez les Oulipiens aussi, il faut avoir les clés. Il faut maîtriser le langage, mais pour avoir fait des ateliers d'écriture avec des gens en grande difficulté, voire illettrés, François Bon fait ça très bien, c'est un écrivain que je vous conseille aussi, qui fait ça très bien dans les prisons, dans les gens, on travaille sur un texte, puis on commence à un texte du 16e siècle d'une courtisane chinoise. Allez, commence par le plus dur. Et cette femme, elle était courtisane, elle se faisait chier, elle était assez riche, et elle écrivait des choses. Elle parlait par exemple de la cage de l'oiseau. Et elle avait une maison de rapport avec des prostituées derrière. Elle était chef de fin de 16e siècle. Elle dit, je ne vais pas commencer par, je sais pas, Prévert. Ou tout. Non, commence par ça. C'est-à-dire, comment on dit une journée? C'est quoi une journée? Et dans l'humour, c'est pareil. On dit, voilà, comment je suis venu ici? Je suis passé par la Grand Place. Je suis passé ou je... On le met infinitif, passé par la Grand Place. On note sur un carnet, c'est pas pareil que sur un grand cahier. Et là, vous voyez des gens qui n'ont pas été à l'école. On essaye d'avoir un autre rapport. Je ne dis pas que c'est miraculeux. Mais faire, par exemple, une liste, de faire... Et je crois qu'il y a des moyens de transmettre l'humour, et puis dans la vie, dans les rapports, même puisque je dirige une compagnie, et parfois où je manque d'humour, parfois je suis un gros con, comme on peut l'être tous, un manque d'humour, dans les détails sordides, mais pour avoir connu des événements tragiques, je remercie mes parents de m'avoir transmis l'humour, comme ces gens qui ont connu l'humour, je parle aussi sous les dictatures, et à leur risque et péril. À leur risque et péril, quand même, autre chose que moi. Mais j'ai, à des enterrements de copains, j'ai un autre copain qui a beaucoup d'humour, qui a l'humour extraordinaire aussi, et qui me sortait une blague à propos de ce copain qui s'est suicidé et tout ça. Et c'était drôle, parce que ça tombait pile poil avec ce moment, c'était un respect du mort. Voilà, parce qu'on a la vie, qu'on n'a pas le choix. Et c'était de l'humour, c'était pas une blague, ou c'était pas cette fausse consolation, tu sais. Et je dis bien, je ris, mais il serait content, ou elle serait contente que je ris. Bon, voilà. C'est pour ça que j'ai parlé un peu de ma vie, chose que j'aime pas trop faire, sauf si elle est sur un plateau et que c'est pas vrai. Que c'est... Mais parce que. J'ai beaucoup parlé, hein, j'empêche les questions. Voilà. Parce que je pense qu'effectivement. Mais comment tout ? Effectivement, il faut. J'ai jamais considéré que c'était facile d'ouvrir un livre et de lire. Là-dessus, je suis de l'avis de bon Dieu. C'est pas facile d'entrer dans un musée, quoi qu'on en dise. C'est pas facile d'aller au théâtre, même pour voir mon cul sur la commode. C'est pas facile ! C'est pas donné. Quand Villard disait le plus dur, c'est pas quand il est assis, le spectateur, qu'il n'a jamais été au théâtre, qu'il dit c'est quoi ça, ce truc-là, raconte. Pourquoi il a une épée là ? Quoi, Seigneur ? Hein, qu'est-ce qu'il dit, quoi, Seigneur ? C'est pas ça le plus dur, c'est d'ouvrir la porte. C'est la porte qu'il faut travailler. C'est l'accès. Alors, les accès, pas seulement financiers, mais évidemment, c'est le capital symbolique, tout le bordel, et il faut la société qui va avec. Mais il y a, je pense, une transmission dans l'humour qu'il n'y a pas dans le comique. Tout le monde ne peut pas être comique. Il y a un savoir-faire du comique théâtral, du comique dansé, je veux dire, voilà, bon, si on fait faire rire comme Fred Astaire, j'adore, par exemple, je suis à fond de Fred Astaire, pour faire rire, pour dansant sur la table, en tombant, ou Jerry Lewis, faut savoir le faire. Dans l'humour, je pense au ghetto, par exemple, des histoires juives, des gens dans des situations de souffrance, ou au tchèque, par exemple. Alors, ça, l'humour tchèque, c'est une chose très, très extraordinaire. Dans l'oppression, dans l'interdiction, on a des gens qui trouvent des blagues, mais pour vendre leur bidoche, qui sont des. Et qui existent après. Si on voit le cinéma tchèque, par exemple, des années. Juste après le printemps de Prague, d'ailleurs, Chitilova, hein, enfin bon, tous ces. On a des films d'un humour. Les tchèques sont proches de nous et des anglo-saxons, encore plus que les. Peut-être que les Roumains ou les Hongrois. Et c'est extraordinaire. Le brave soldat Schweig, vous connaissez certainement, qui est l'acte fondateur de l'humour et de la littérature tchèque, c'est extraordinaire. C'est un soldat qui applique à la lettre tous les ans pendant la guerre 14 de l'armée. Et ça fout l'armée en l'air, évidemment. Lui, il vend des chiens, il tue des chiens, puis il vend leur peau, hein, ce qu'il fait à Prague. Et il est empêché dans l'armée, et personne n'en veut parce qu'il obéit trop bien. Et Brecht l'utilisera après aussi comme. Et c'est de l'humour. Et donc là, on a aussi une espèce de chose qui, effectivement, est érudite pour l'humoriste. C'est vrai, tu as raison, je pense, mais ça, on l'a dans beaucoup de choses. Mais en même temps, il y a cet humus, cette espèce de chose, il y a une espèce d'air biologique de l'humour qui est que ça ne doit pas être une supériorité. En tout cas, si on a besoin de culture pour faire de l'humour ou pour l'entendre, on ne peut pas l'imposer, sinon on n'a pas d'humour. Il y a des humoristes qui n'ont pas d'humour, des comiques qui n'ont pas d'humour, qui vous assènent leur humour. Faut accepter d'être ridicule, ce que dit Michaud, hein. L'absolu ridicule, d'être le clown de soi-même, d'être ridicule, et en même temps dire je ne suis pas ridicule du tout, évidemment. Il y a toutes ces choses-là que l'être humain, l'être symbolique, humain, de tout pays. Alors j'ai travaillé en Afrique, au Tchad, on dit l'humour, c'est les anglo-saxons. J'adore, je sais que j'adore. Mais les humours, les formes de rapport, dans les filiations, par exemple les femmes et les tantes, j'étais au Tchad, travaillé 3 semaines au Tchad, c'était extraordinaire. Comment les femmes qui prenaient en charge les enfants et tout ça, il y a plusieurs cours comme ça, après les ateliers, j'allais là. Et puis une drôlerie, elle me prenait comme un enfant, moi, des étoiles blanches, tu viens là et tout ça. Et c'était drôle, elles n'avaient jamais été en France et tout. Hein. Et mon copain il me traduisait, c'est du tchadien, enfin bon. Et c'était, mais d'une drôlerie. espèce d'humour qui est lié à plein de choses. Après, il n'y en a pas non plus, hein. Mais c'était extraordinaire. Je ne sais pas pour les traditions orientales, ce serait marrant de voir les panoplies d'humour. Je pense qu'au Japon aussi, ils ont d'autres traditions, soit la tradition évidemment là-dessous, enfin la tradition des pensées et puis de l'histoire des pays. On sait qu'il y a de l'humour finnois, finlandais. Ah oui, il y en a. On le voit que, bon, par exemple, les films de Charisma Kili, enfin, on va dire, il y a un humour très particulier que j'adore complètement, hein, dans les pays nordiques, mais on a aussi, pour avoir travaillé aussi sur des textes très anciens de fabulistes de arabes du 6e siècle, bon, dans un des plus connus, qui est sorti chez. Voilà, des imbécilités. Et cette espèce de personnage qui traverse tout le monde. Moyen-Oriental et tout, il y a des traditions d'humour. Je ne parle pas seulement de comique. Le comique est interdit aussi. Hein. Le rapport à l'humour, là, il y a de l'humour. Mais qui cherche sa clé en pleine lumière, c'est plus facile. Alors qu'il n'a pas perdu l'âme, c'est plus facile de chercher en pleine lumière. Ça date du 6e, c'est une blague arabe. Et quand on l'a travaillé, voilà, pour nous, le monde islamique est sans humour. Dans la vision qu'on a, effectivement, on a cette conception-là. Je vois qu'il y a les religions aussi. Hein. Et l'humour, ça me va bien aussi. Tu me souris de dire. Voilà. Donc, mais je suis un passionné de l'humour parce que ça m'a sauvé la vie. Et ça m'a sauvé la vie par moments, réellement, dans les moments. J'ai connu des moments de dépression. Ça n'empêche pas, hein. L'humour n'empêche pas qu'on soit malheureux. Le comique peut, à un moment, vous divertir, passer une heure, putain, on s'est toilé. Vous avez mal au ventre. Moi, j'adore quand on arrive, on a mal au ventre. J'ai un copain qui a une crise, on devait le sortir tellement il pissait sur lui. Enfin, c'était. Ça, c'est extraordinaire. Quelqu'un qui meurt de rire, c'est extraordinaire. Mais l'humour, ça doit servir tous les jours. C'est ça le problème. Il y a à côté. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je suis très bavard, excusez-moi.
C'était arrivé de dévisser sur scène, de dire ça marche pas, est-ce qu'il y a des...
Ah oui, mais ça c'est donc... Ah oui, avec l'humour. Avec l'humour, ça marche pas forcément. Je te le dis, quand j'ai créé le jeu percolateur... Ben, ça applique un type de jeu. Ouais, je me suis planté, ouais. Au début, quand j'ai créé à La Rose des Vents, le jeu percolateur, en 80... Je sais plus combien... 79-80, donc c'est vieux. Avec des publics qui étaient habitués à voir des spectacles... sont engagés de l'époque, enfin des cultureux, on dirait, comme tu dirais ici, des gens qui sont dans le champ de la recherche. Ben bon, voilà, ils allaient voir les spectacles, machin, mais il y avait des comédiens et tout. Et mon Benchley et tout ça, et mon Ring Lardner avec des trucs. C'était bizarre. J'avais des comédiens extraordinaires pour jouer ça. Et après, on l'a joué devant des publics plus jeunes qui lisaient de la BD. Enfin, c'était pas cher et tout, on n'avait pas de 24 ans, on n'avait pas de théâtre, évidemment. Et bon, il y avait de la musique, il y avait du rock dedans et tout. Bon. Et ils se poilaient. Parce qu'ils étaient déjà alors, hors du champ, forcément, avec puis après, c'est rentré, évidemment. Et des proches en étaient à ses débuts. Il y a une habitude par la radio, d'entendre un type de. Les émissions des proches, voilà, de pouvoir insulter quelqu'un et en même temps d'être ridicule. Alors que maintenant, on a. C'est devenu une forme de sarcasme et tout ça, ce qui n'était pas du tout des proches. Hein, voilà. Donc il y a eu ça, de se planter dans le comique, oui. Alors dans le comique, quand tu ris pas, tu as le salaire immédiatement.
La question, c'était sur les techniques de récupération.
Ah ouais. Alors oui, quand je me plante...
Comment on se récupère ?
Alors dans l'humour, ou dans les trucs où il y a beaucoup d'humour, des choses comme ça, d'abord on n'attend pas les rires, on ne force pas, on a ce qu'on appelle l'undertreatment. Ça se passe dans les tuyaux. L'humour, ça se passe dans les tuyaux. Le comique, ça sort des tuyaux. C'est ça qui fait la force des Anglais, des Anglo-Saxons dans leur humour, c'est, on dit cérébral, non c'est intérieur. Mais à ce moment-là, dans le comique, on peut toujours se récupérer. Soit vous êtes tout seul sur scène, alors dans le one-man show c'est dur. Si vous faites Paris, mais il y a des gens, ouais ça m'est arrivé, ouais. Soit vous êtes en force, c'est-à-dire forcé, tu vas rire, ouais, te vois rire tu. Dans le public, bon, sauf si vous êtes super connu, ils rient avant même de. Ils vont voir Danny Boone maintenant, les gens ils rient dans la queue de la file d'attente. Hein. Parce qu'il est connu, populaire, qu'on a vu ses spectacles et qu'il va faire quoi, ouais, j'espère. Moi j'allais voir Fernand Reynaud, ça quand j'étais minot, je riais d'avance, tu vois. Alors, bon voilà, il est entré sur scène aujourd'hui, le bon. Ah, j'en riais. mais il avait 40 ans de métier derrière. Bon. Mais quand on doit faire rire qu'on n'est pas connu, et tout, après il y a les copains, après il y a la situation. Il y a les, là, je vais monter à la biche par exemple. Si à un moment vous décrochez de la situation, si vous ne jouez pas sur certains rythmes, comme en musique, hein, c'est prévu, des tempos, ça ne veut pas dire jouer vite. C'est-à-dire jouer avec une grande sincérité des choses absolument fausses. Ce sont des gens faux. Chez la biche, par exemple, qui est un grand, grand, grand comique, où il y a de l'humour chez la biche aussi, c'est un grand, il était très, très... Là, c'est très dur à récupérer. Mais il y a des publics qui rient à la fin. Très curieux, ça. Des publics qui aiment à la fin, ils sont là. Alors, dans l'émotion, ça va encore. J'ai joué de tragédie, j'ai monté Cassandre de Christa Wolf. Bon, là, après que les gens, ils pleurent. Ouais, mais bon. Et les gens... Enfin, ici, il y a des rires, si vous voulez. Il y a des rires dans la salle, mais c'est pas... Ils n'ont pas compris. Mais on se dit quand même, si on, est, on connaît bien notre métier, c'est moi qui n'ai pas bien travaillé. C'est pas eux qui n'ont pas compris. Mais il y a des spectateurs stupides aussi. Hein. Mais on travaille pour eux. Tandis qu'eux, ils exigent qu'on ne soit pas stupides, nous. Enfin bon, c'est compliqué. Mais ça m'est arrivé, ouais. C'est très très dur. Dans la tragédie, ou les romans tragiques que j'ai montés, les Jules Obscur, des choses tragiques sur la résistance, enfin les femmes dans la résistance et tout, ça n'a rien à voir. Enfin bon, quoi qu'il y avait de l'humour aussi. Mais... Dans le comique, c'est épouvantable. C'est le cauchemar. Alors, on peut se rattraper si vous avez des bons partenaires. Des bons partenaires qui tiennent le coup. Ou alors, vous riez vous-même, ce qu'on se disait. On craque, ça s'appelle craquer. Vous vous faites rire. Ou alors, les gens rient trop. C'est-à-dire que chaque fois... D'abord, une allusion sexuelle, ils rient. Alors, quand il y a des jeunes ou des parents, le fait devant des gens plus jeunes, c'est... Dès qu'il y a cul, machin, voilà, machin, ça rit. Et alors après, vous essayez de placer votre camelote sur autre chose que ça, dans la pièce ou dans le spectacle, sur, par exemple, j'en sais rien, sur l'enfant, sur... Et les gens n'arrivent pas du tout. Oh non, encore du... Ils réclament encore du cul, s'il vous plaît. Moi, encore du... Et on n'est pas, là pour livrer tout le temps ce qu'il faut, quoi. Et... Ouais, c'est un rude métier de faire rire. C'est ce que disait Molière, il avait raison. Faire rire les honnêtes gens, c'est une rude... C'est une chose très, très, très dure. Très gratifiante aussi, en même temps quand les gens rient, c'est un salaire, c'est payé cash. Alors après, quand on est connu et tout, je parlais bon, d'Annie Boone parce qu'il est de la région, qu'on l'a vu à ses débuts et tout ça, et puis qu'elle a énormément de talent, quoi. Après, on aime ou on n'aime pas, c'est autre chose. Hein. Mais après, il faut penser aux jeunes qui débutent dans le comique, dans mais j'aime dans le théâtre comique, ou les formes de théâtre comique, j'aime pas l'affachissement. J'aime pas la facilité, la vulgarité, c'est-à-dire on sait ce qui marche. Mais on ne va pas citer des théâtres, y compris dans la région, qui font, sur les Belges, sur le cul, font, bon voilà. Mais ça a sa place, ça a toujours existé, moi ça ne me gêne pas du tout. Hein. Mais moi j'attache autant d'exigences, alors que c'est moins bien classé quand même dans les disciplines. J'avais des grands débats quand je faisais l'option bac ici à Pasteur, pas loin, avec les élèves qui me disaient, mais enfin on étudie l'arrêt d'ourcine de la biche, et en même temps, on racine, c'est pas possible de mettre ça sur le même niveau. C'est les niveaux qui sont pas bons, c'est la notion de niveau. Alors, on va pas revenir sur Baudieu, mais la catégorisation, c'est-à-dire le mettre sur la place publique, dire ça, c'est important. C'est pas. Moi, j'adore Racine et j'adore la biche, ou j'adore Groucho Marx et j'adore Ingmar Bergman. Where is the contradiction ? Il n'y en a pas ! Il n'y en a pas ! C'est quelqu'un qui installe, ou des gens qui ont intérêt à installer des contradictions là-dedans. Mais c'est vrai que, en tant que chercheur, et je vous remercie, sur le rire, on a marqué rire sur le CNRS ici, le rire. Alors, et même si bon, on a du mal à voir du monde, maintenant, dans 10 ans, ça va être plein, 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 sur d'autres thèmes. Mais c'est bien non pas... J'aime pas le discours de Laurie sur le rire, les intellectuels n'aiment pas le rire, c'est des conneries. Moi, je suis un peu intello, parce que j'ai fait la fac, même en foutant pas grand-chose, mais bon, j'ai appris à lire, quoi. Puis, mais c'est pas vrai, je pense que réellement, le rire est une des formes de l'intelligence au sens large humaine, que Montaigne adorait, que, évidemment, chez Molière, ça aide à faire comprendre des choses. Mais l'humour, comme l'humeur, puisque on sait que le mot humeur en français était plutôt péjoratif au 18e, il n'est pas d'humeur. Ah, les humeurs pécantes chez Molière, alors que chez les Anglais, tout de suite, Everyman, chaque homme dans son humour, hein, pièce élisabéthaine, c'est sa façon d'être. L'humeur, l'humus, le liquide, cette façon, on baigne dedans. Et pour avoir travaillé beaucoup sur les auteurs anglo-saxons, et dans Shakespeare, il y a des choses d'humour aussi très très fortes. Donc il a fait des choses... voilà. Par exemple, l'humour dans la tragédie, c'est une chose intéressante, l'humour dans la tragédie. Dans Richard III, il y a des choses... il fait des blagues épouvantables quand il essaye de s'envoyer la femme, la femme avec les laits et tout ça. Et c'est voilà, dans Titus Andronicus qui est complètement gore. Il y a des mecs qui bouffent leurs enfants, ils les égorgent, ils empoisonnent et tout. C'est atroce, Titus. Et il y a des choses drôles, il y a des moments. Dans Macbeth, Shakespeare met au milieu de Macbeth, où ils ont déjà tué leur roi et tout, le mec et sa femme, là, Macbeth et sa femme. Et au milieu de la pièce, parce que les gens bouffaient, se nevaient et tout, il met une scène de portier ivre qui dure un quart d'heure. Un mec qui est portier, on frappe, putain, ils sont tués, il y a du sang qui coule dans la chambre et tout, on accuse les soldats, ça coule, égorgé. Et le portier, il dit, qu'est-ce que c'est? Ça dure un quart d'heure. Selon les acteurs anglais qui le jouent, ça peut durer une 20 minutes. C'est très long. Il est dans sa guérite, on entend frapper, et alors il est en tout, tout. Oh, putain, ça y est, c'est Duncan qui revient et tout, ils vont se faire choper et tout. Et le mec est bourré, il dit oh, attendez, j'ai même pas eu le temps de voir ma pute, là je peux pas. Alors donc on rit. Et Shakespeare met ça au milieu de Macbeth. Voilà. Hein, comme on mettait des opéras bouffe au milieu d'opéras plus sérieux, ce qu'a fait. Même Purcell a fait ça, quoi. Voilà, donc je suis parti un peu loin là.
Donc la finalité de l'humour n'est qu'une toute petite partie, destinée au rire.
Ouais, mais en même temps, ou c'est pour rire soi-même, ou c'est pour...
être une arme.
Ouais, c'est une... Alors il y a Sorbonne, qui est un autre humoriste américain, qui dit « L'humour est une épée de défense et un bouclier d'attaque. » Dans la traduction littéraire. Voilà, hein, Sorbonne. James Sorbonne, magnifique, hein, ça, lui, c'est très drôle. Alors lui, il fait rire avec les animaux. Là, ça, des gens qui ont des problèmes avec les animaux. Et oui, j'ai un cheval derrière mon rideau, qu'est-ce que je dois faire, tout ça. Et c'est un grand humoriste et dessinateur de New Yorker, c'est un maître absolu, grand copain des Marx Brothers et tout. Et il dit ça, il dit, je l'avais traduit parce que ce texte-là n'était pas traduit, et il dit en gros, voilà, c'est une arme, une arme offensive de défense et une arme défensive d'attaque. Ça, et Freud le dit aussi très bien avec drôlerie d'ailleurs, même si on n'est pas. Et puis on a des attitudes comme ça. Je parlais même à propos de mon Dieu dans Méditation pascalienne, enfin, où il parle de gens qui, pour se défendre aussi dans des situations, en particulier avec l'administration, enfin des gens, et qui utilisent en dehors de la violence. Il y a la violence, maintenant c'est de pire en pire parce que la violence imposée elle ressort, mais il y a des gens qui se démerdent avec des blagues, avec des choses pour déplacer. Un petit peu, il y a aussi des formes d'humour populaire qui on essaye de voilà. Et même quand on est dans une situation, dans un bus ou dans une file d'attente ou machin, il y a une agressivité. Mais si vous arrivez à mettre de l'humour, sauf si quelqu'un vous frappe dessus, évidemment, qui ne supporte pas, c'est des gens qui ne supportent pas l'humour. Hein. Alors il faut faire gaffe, évidemment, si vous avez des gens susceptibles et tout ça. Mais si vous arrivez à faire rire à vos dépens, par exemple. À dire c'est quoi ici, c'est pour la maternité, vous venez au Pôle emploi, là, vous allez, je voudrais accoucher, vous êtes ah, pardon, c'est pas ici, non. Bon, vous êtes ridicule, il faut vous ridiculiser un petit peu, et avoir une carte de crédit, comme ça, morale, bon, c'est pas facile, hein. Et il y a des choses comme c'est Benchley, d'ailleurs, où ils mettaient des fauteuils exprès pour les gens s'endorment, pour pas avoir à parler avec eux, enfin, voilà. Il se faisait réveiller par son secrétaire, il devait trouver tous les matins un truc différent, son secrétaire, disant, voilà, c'est ce matin où on arrose le lit pour la patinage. Oh, d'accord. Pour qu'il y ait une raison de se lever. Bon, voilà. Mais bon, eux, ils vivaient là-dedans.
Hein. J'avais entendu un chef de travaux qui avait engueulé son ouvrier d'une erreur. Et l'ouvrier, baissant la tête, lui dit vous jetez pas loin, mais chez des grosses briques.
Super.
Et on ne savait pas si on riait du chef de service.
Ouais, c'est ce que dit Freud, voilà. Aussi, ou de cette espérance. Tout à fait, bien sûr. Ah ouais. Ben oui, parce que parfois, quoi d'autre dire dans un rapport de domination, un rapport de force, quoi d'autre dire? Et que, il y a ça. Il suffit qu'il y ait un copain derrière qui l'entende, vous l'ayez entendu, et c'est super, quoi. C'est, en plus, ça dit une chose quand même super compliquée, quand même. L'humour, c'est le droit de dire des choses compliquées. Bon, j'ai pas pris de citation, hein, mais j'en ai, alors là, il y en aurait plein, évidemment. Hein. Alors, c'est cette chose dans l'humour, c'est ce que disait, alors aussi un auteur, que vous connaissez aussi, qui est Lichtenberg, enfin, hein, quand il dit c'est un couteau sans lame, c'est un couteau sans manche auquel il manque la lame. Hein. Mais en même temps, on le dit, c'est défini comme, comme tel. Voilà. Donc ça ne doit pas être tout le temps absurde et surréaliste complètement. Dans le surréalisme, il y a une fonction très intellectuelle, il y a des textes très drôles de Picabia, tout ça, de peintres, enfin, qui étaient très... Mais, je veux dire, faut... si on dit le non-sens, c'est frappadin, ça ne veut rien dire, les gens ne vont pas. Il faut que ça ait un sens qui est... Non, enfin, il faut qu'on accroche. Moi, je suis très sensible, en tant qu'homme de théâtre, à ce que même sur un humour un peu intello, un petit peu intellectuel, un petit peu symbolique, on accroche les gens qui rigolent pas forcément, mais qui, c'est bon. C'est parce que comme on avale un beau texte en disant, tiens, c'est pas mal, c'est sympa, quoi. Ce que Brecht appelle la distanciation. Ouais, je comprends, ouais, je comprends. C'est pas drôle, mais je comprends que... Voilà.
Je pensais que la distanciation, je me suis trompé, je pensais que la distanciation, c'était le fait qu'un comédien joue un rôle,
ouais.
Donc il est au service de l'auteur, mais il est en même temps à un autre niveau et il s'observe.
Oui, mais ça c'est une vision psychologique, enfin on va pas parler de Brecht maintenant, mais Brecht disait avant cette très belle phrase, il disait que les gens sans humour font rire en général, ce qui était risible. Non, au contraire, quand on fait un travail de comédien sur la... Oh, puis en plus, lui, quand il l'a lancé, il faut distinguer la période où il l'a lancé, aussi, il faut voir dans l'époque, hein, où il luttait contre un théâtre à la fois très Schiller et tout ça, qui étaient des grands auteurs aussi, hein, mais très épais, enfin, très colossal, voilà. Et lui disait, on doit... C'est pour le spectateur. Il dit, je suis là pour diviser. C'est-à-dire que le spectateur doit comprendre que le comédien, s'il sanglote, évidemment, on demande au comédien de sangloter, mais en même temps, alors les mauvaises langues vont dire qu'ils sont en même temps au parti... Parti communiste en l'occurrence, c'est plus compliqué que ça. En tout cas, de s'impliquer, que les gens savent qu'ils sont au théâtre. Maintenant, c'est fait, on a plus à le faire. Comme on sait qu'on lit une BD, maintenant dans la BD, le mec, vous êtes en train de lire une BD, attention, c'est une page déchirée. Ah non, on n'est pas déchiré. Le dessin animé, maintenant avec la 3D ou la 4D, mais j'allais dire, on est dans la distance, on le sait maintenant, on a plus à le prouver. Déjà, chez Cantex Avery fait ses trucs dans les années 40 où le personnage sort de la bande du film, il répète, puis il retrouve la bande son, puis il rentre dedans. Et on a du métafilm, du métatexte. Et chez Brecht aussi, on avait ça, on avait un grand besoin de ça. Après, on a eu abusé de ça. Il fallait jouer sans affect. Ça me faisait chier. Si quelqu'un. Mais Brecht, il faut qu'on comprenne pourquoi Puntilla, Maître Puntilla, n'est pas seulement un homme sympathique à certains moments, et il prenait l'exemple de Chaplin. Il disait, regardez Chaplin, hein, dans les où il y a la même histoire, où le mec, quand il est bourré, il est très généreux, le riche, puis quand il est en bonne santé, quand il est, hein, qu'est-ce que c'est que ce poivreau, ce pauvre qui vient chez moi, non mais qu'est-ce que c'est, voilà, et il dit que... Et là-dessus, il disait, faut travailler de façon à ce que les gens comprennent, parce que les belles théâtres scientifiques, comprennent ça, ça ne veut pas dire jouer comme du contreplaqué, quoi, jouer du CP. Quoi. Mais ne, donc, pas confondre l'éloignement et la distanciation. Il ne faut pas être victime. Moi, je ne concevrais pas des théâtres sans affect, y compris politique, y compris pour dire, pour avoir travaillé, par exemple, sur les textes de déportés. Hein, Charlotte Delbon, dont vous faites l'anniversaire cette année. Quand les femmes sont dans le camp, elle a ramené ça de Ravensbrück. Elle a écrit ça pour le théâtre en forme de chorale. Après, comment vous êtes avec des comédiennes aujourd'hui? On est en bonne santé. On dit ça. Quand est-ce qu'on viendra? Si on vient. Non, quand on viendra? Comment on le fait sur scène, ça? On s'habille en déporté? Non, mais alors, là aussi, c'est une première interprétation. Et on a trouvé, on a dû travailler théâtralement à la distance. C'est Virgile qui m'a aidé en l'occurrence, l'Énéide, quand il traverse les enfers. L'Énée traverse les enfers, comme ça. Et il y a le lac, le chant des doux, le chant des pleurs, le chant d'art. Et j'ai pensé à mon enfance, par exemple, pour traiter, il y a quatre femmes sur le plateau, et elles doivent parler du camp de Ravensbrück. Quand elles sont dans le camp. Elle l'a écrit après, en venant, Charlotte Delbo. Je dis, putain, sur une scène, si tu veux pas mettre des violons, comment nous, on parle de ça, de cette parole, quand on viendra. Mais pas, moi, je n'aurais pu parler. J'étais une petite fille quand je parle. Oh putain, attends, c'est déjà... On sent là, on sent le camp, on va sentir tout le temps. On va sentir ça, même devant des spectateurs d'aujourd'hui. Non seulement respect, mais pas non plus un respect de monument au mort. C'est une parole vivante. Donc comment on le fait sur scène? C'est assis là-dessus, assis sur une chaise, debout. Et là, le problème, ils sont politiques. Enfin, et on avait, j'ai pensé à mon enfance où, quand on était en pension chez les curés, on n'avait pas le droit, on éteignait. 9h, on éteignait, plus le droit de parler. Et malgré tout, on parlait. Bonsoir, arrête de faire piquer. On n'a plus. On s'était piqué, on était 2 heures de retenue. Hein. Les années 60, ça y allait. Et j'ai dit, tiens, on va les allonger. Parce qu'on ne parle pas pareil comme ça. Quand est-ce qu'on reviendra allonger? Puis il y a une lampe qui se baladait, une grosse lampe comme dans les camps. Enfin, comme dans les endroits publics merdeux des années 5, après-guerre, tout ça, qu'on a dans les vieilles cantines, qui se baladaient. Et les 4 comédiennes le disaient, on appelle ça par exemple de distanciation. C'est les comédiennes d'aujourd'hui, qu'elles sont de jeunes à plus âgées, mais en bonne santé. Je dis, parfait, que pas pesant 27 kilos. Et pourquoi elle nous a transmis cette parole, Charlotte Delbo? Alors, pour parler de la... Il n'y a pas d'humour. Et en même temps, elle avait beaucoup d'humour, c'est une femme quand même. Mais comment parler de ça, avoir le droit? Et là, la distanciation, c'était le spectateur, c'est bien. Et s'il pleure, moi je pleurais tous les soirs à ça. Alors qu'il n'y avait aucun pathos. C'est parce qu'elle parlait, comme quand on parle dans un dortoir, ou quand... Tu te rappelles ça? Comme les enfants parlent la nuit en vacances au bord de la mer, et qu'ils dorment pas. Ils ont enlevé leurs écouteurs, ils n'ont même plus de portable, ils n'ont plus rien. Ils sont obligés de parler. Et cette parole montait comme ça. Et il suffit de les allonger, par exemple. Si on l'a dit debout, face à vous, bon, ça y est, ils nous racontent des paroles de déportés. Voilà, pour prendre un cas limite, hein, à l'autre bout. Et le théâtre, on a toujours affaire à ça. Pour faire du théâtre roman, par exemple, je travaille sur des romans. La distance, quand vous entrez sur scène, il vous dit ce jour-là, il arriva que. Vous ne dites même pas bonjour, vous citez un texte. Et en même temps, le public ne doit pas s'en séparer, on va se faire chier. On a plein de problèmes comme ça. Et là, il y a l'humour aussi, beaucoup. Pour avoir travaillé sur Dickens, qui était un aventurier aussi, beaucoup d'humour. On a... Alors là, c'est la confiance au spectateur, dans nos métiers. Hein. Dans nos métiers. Dans, pour l'écriture aussi, pour les écrivains, je pense que c'est pareil. Donc,
ce que vous avez dit ce soir, c'est que l'humour est une forme de distanciation.
Ouais. De mise à distance, mais pas d'éloignement. Pas de « je me protège, vous ne m'aurez pas ». C'est vrai, il parle de narcissisme, hein, Freud. Il dit « c'est la victoire du moi bon, ». Enfin, avec ces termes à lui, je pense que c'est aussi, parfois, c'est éviter l'humiliation. Donc, c'est un thème qui me hante beaucoup, c'est l'humiliation. C'est la pire chose qu'on fait aux humains. C'est humilier un être humain. On peut le tuer. On le sait, ça, on le sait depuis, nos grands-parents nous le savent depuis longtemps. C'est humilier, déjà. Pour moi, c'est la pire. J'ai longtemps travaillé là-dessus au théâtre aussi, sur l'humiliation. J'adore les romans qui parlent de ça. Et que l'humour, si c'est un homme, suis-je encore un homme? C'est un homme, ce truc-là? Ou, pour parler encore une fois de l'extrême, qui sont les camps d'extermination, on parlait aussi chez les Khmer Rouges, enfin, je veux dire, comment en parler, hein? Sans le cinéma, sans rien, sans faire un discours devant un monument au mort, parce qu'on est acteur, ou on est auteur, on est danseur, on est musicien, quelle musique on fait là-dessus? Et toutes ces questions qu'on se pose sont de la distance. Et on l'a maintenant, c'est vrai. Et les gens sont habitués, je veux dire, les gens, pour faire aussi des spectacles devant des gens simples, enfin, il faut trouver aussi les moyens. Moi, je suis très attaché à un théâtre populaire, et, c'est-à-dire qu'ils disent des choses compliquées à tout le monde, en sachant que c'est de plus en plus dur d'aller au théâtre maintenant, vraiment, parce qu'il y a tellement de merde, mais bon, voilà. Mais c'est effectivement de la distance, mais c'est pas de la supériorité, c'est pas l'ironie. Je le répète, c'est pas le sarcasme, c'est pas une position dominante. Hein? Quand je dis vraiment le comique invente le poil à gratter, et la première victime, c'est un humoriste. C'est-à-dire, quand on vous met du poil à gratter, comment vous faites? Vous gueulez? vous insultez le mec. Regardez, il a l'air con. Alors là, il faut trouver quelque chose pour pas avoir l'air con. Donc vous vous grattez, je dis non, je ne me gratte pas, non, c'est rien du tout. Il faut trouver. C'est un rire de victime, je pense, de naître déjà. C'est un rire de victime. Enfin, de victime. On sort de sa mère, et puis après, il y a des trucs pas marrants. Et puis il y a des trucs marrants. Et qu'il faut se. Il faut se démerder. Alors, ça, dans l'humour, il y a cette chose-là. Mais qui n'est pas l'éloignement. J'ai horreur du cynisme. Voilà, c'est l'éloignement. Ça, c'est la différence entre l'éloignement et la distance. Une distance, c'est de faire comprendre aux gens. Attends. Je suis qu'un bavard. La présentation est finie, c'est fini, l'objet qui a servi là, putain, c'est beau le moment où il boit, ça en devient une bouteille. Quoi. Là, coupé, on coupe, là, on coupe, voilà, ça y est. Bon, là, ça reste dans la boîte, mais c'est fini, quoi. Dire, c'est... Et on le sait tout le temps, ça. On sait qu'on va mourir, c'est vrai sûr. Enfin, moi pas, mais j'aurais pas dû vous le dire ce soir, ça va vous foutre le bon moment. Moi, je meurs pas, mais... on sait ça, donc. Et même, il y a des auteurs très sérieux, je fais beaucoup d'humour. On pourrait travailler sur Sartre, par exemple, dans L'enfance d'un chef. J'ai longtemps joué ce texte qui est dans le mur, dans le scénario dans lequel il appelle Le Mur. J'ai lu ça à 18 ans. C'est drôle, c'est une méchanceté, c'est une drôlerie. Bon, après, mais non, mais quoique. Parfois, chez les gens pas drôles aussi, l'humour chez les gens. Qui n'ont pas été habitués, qui n'ont pas été drôles tout de suite, ou qui l'étaient, puis qui ne le sont plus devenus. Il y en a, j'en ai connu. Hein. Des gens qui sont pris au sérieux. Voilà. J'ai assommé, excusez-moi, beaucoup.
Ça va être
là ? Oh, ouais, pour vous, pour votre plus grand bien.
Merci beaucoup.
Bah, merci à vous d'avoir patienté. Merci à vous, merci beaucoup.